Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Yannick Bouchard.
Ouais, une bonne soirée avec nous aux amateurs de sport. Je souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marc Defoy. Bonsoir Marc.
Bonsoir Mario.
On t'a fait sortir de la maison ce soir. Oui, merci de veiller avec nous comme dans les belles années que t'allais dans les studios de 110 et les compagnies.
Oui.
Quelle
époque. Là, je retournais dans ma voiture, puis j'étais sur le pont Victoria, puis je disais quelques mots juste de folie que j'ai dit encore à soir.
Oh boy, m'a dit une affaire. Il faudrait pas faire le top 10 des folies qui sont dit là. Il y aurait de la compétition, mon Marc. Stéphane, bonsoir, Steph. Comment ça va?
Salut, les gars. Ça va très, très bien. Pas mal le fun d'exit avec Marc à soir. Là.
Mais, hein?
Une légende.
Hey, et notre ami Jérémy Filosa. Bonsoir, Philo.
Salut, les gars.
Philo, t'es-tu dépompé un peu là du match des Blue Jays avant qu'on parle de nos sujets hockey et compagnie? Juste à remettre les gens dans le contexte, Les Jays éliminés hier, ils ont marqué un point en deux matchs. Des gars qui se sont fait prendre sur les buts. La veille, t'avais Bichette. Hier, c'est Vlad Junior qui s'est fait pinceau au deuxième. Mais au-delà de tout ça, situation potentiellement critique en quatrième manche. 71 lancés seulement derrière la cravate. Berrios lançait de façon électrique au dire même de John Schneider. Après le match, il dit, c'était dur de le retirer. C'est comme, tu te demandes quasiment si c'était son call. Mais qu'est-ce que t'en es pas revenu encore? Les fameuses statistiques avancées dans le baseball.
Ben, la première chose que je veux dire, c'est qu'il va falloir vraiment qu'on regarde vers les dirigeants des Blue Jays parce que à la date limite des transactions, cette équipe-là piétinait offensivement. On savait qu'on avait besoin d'un autre coup de bâton, puis ils ont pas ajouté personne dans cet alignement-là, puis ils ont failli pratiquement rater les séries à la toute fin. Ça, c'est la première chose. Mais l'histoire de Berrios, 47 lancés, il est en quatrième manche, il domine ses adversaires, il a 5 retraits sur des prises et on décide de le retirer parce que les statistiques avancées disent que c'était le moment de faire rentrer...
Il y avait un plan.
Il y avait un plan, mais écoute, je veux dire, t'as bien beau avoir un plan, mais quand tu rentres dans le game, faut que tu t'ajustes par rapport à ce que t'as devant les yeux. Moi, personnellement, là, je pense qu'on est rendu viré sur le capot avec les statistiques avancées pour la simple et unique raison, je vais vous l'expliquer pourquoi. Les statistiques, là, ça marche sur du long terme. C'est comme au casino. Tu peux gagner une main, mais tu sais que sur le long terme, tu vas perdre. Les mathématiques sont pas de ton bord. Donc, sur une saison de 162 matchs, les statistiques avancées, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand tu arrives dans un match isolé où tout peut arriver, tu peux donner l'information au gérant, mais si tu laisses pas ton gérant prendre la décision finale par rapport à ce que lui voit puis ce que lui feel sur son banc puis sur le terrain, t'as un maudit gros problème. Parce que
Steph, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ancien joueur étoile du Big Bill et du Sherbrooke Senior, puis t'es un gros gars de baseball, Steph, les gens l'ignorent,
mais je le répète. Ouais, j'écoutais le match hier et puis moi aussi, j'en revenais pas. J'ai dit, voyons donc. Et puis moi aussi les stats là, ça enlève tout l'instinct des entraîneurs, tout le feel de la game. Puis à un moment donné, tu penses plus pantoute, tu regardes des stats puis tu dis ok, on
tu moi, déresponsabilises là, quasiment, tu sais.
Moi là, je déteste les stats avancées, c'est un outil, mais c'est pas quelque chose sur quoi tu vas prendre des décisions précises dans le feu de l'action. Et ça là, hier j'étais déçu. Il y a un mois et demi, j'ai joué avec les anciens expos de Montréal, de deux matchs là, de charité, puis je parlais avec Claude Raymond. Puis Claude, il me disait, ce qu'il déçoit le plus, lui, à cette heure, dans le baseball, c'est les lanceurs qu'on les laisse plus traverser la cinquième manche pour la plupart. Et puis, il y a une autre affaire qui me déçoit beaucoup, c'est que maintenant, c'est les stats avancées qui décident quand tu vas changer tes lanceurs, puis que il dit ça me déçoit beaucoup dans le baseball, puis il avait tellement raison.
Marc, tu t'imagines Philippe Alou prendre une décision comme ça essayer de la défendre? Tu peux pas t'imaginer ça.
J'ai pas connu Philippe Alou comme les entraîneurs du Canadien qui
évidemment
que j'ai couvert, mais j'en ai entendu parler. personne ne disait à Philippe Alou comment diriger son club. Sur n'importe quoi. C'était, puis hier, là, si on avait dit à Philippe Alou, eh hey, ben écoute, là, Berrios, là, dans telle situation, là, non, c'est...
Hey, Philippe, quatrième manche.
Les arrêts ne voyaient pas être.
Autre chose que Claude, il me disait, il dit, maintenant, la mode dans le baseball majeur, là, c'est, ils veulent plus qu'un lanceur voit un frappeur plus que deux fois. Fait que quand ils ont vu un lanceur deux fois, un frappeur deux fois, quand le frappeur a vu le lanceur deux fois, mais le lanceur, c'est fini.
Ouais.
Et puis là, les stats, parce que les stats disent que la troisième apparition du lanceur...
T'as apprivoisé la vitesse des tirs.
Mais pas
les bons lanceurs.
Non.
Les lanceurs moyens, je peux comprendre. Mais tu sais, les Greg Maddux, les John Smoltz, ces gars-là lançaient neuf manches puis ils n'avaient pas de problème. Hey, Jose Berrios, les gars, là, il a signé un contrat de 131 millions de dollars. Puis là, c'est la game qui va sauver ta saison. Puis tu sors après trois manches et un tiers. Ça ne fait aucun sens. Puis c'est ça que... Tu sais, vous parlez de Philippe, puis vous avez raison. Parce que aujourd'hui, là, t'as deux gérants dans le baseball majeur qui ont les décisions finales. Puis on le sait. Bruce Bochy et Dusty Baker. Mm. Les autres, là, les gars, là, c'est des trois gars, trois geeks en avant de leur ordinateur, dans le bureau en arrière, là. C'est eux autres qui envoient les informations aux gérants puis qui disent « Sors-lui, mets-lui, mets-lui. » Ça n'a aucun bon sens.
C'est aberrant. Puis moi, écoute, là, je vais faire... peut-être que je vais trop loin, là, mais ça va être quoi le baseball dans 15-20 ans? Il n'y aura plus de gérant, il n'y a plus d'entraîneur dans le dabot.
L'arbitre robot,
ça va
être le GM robot, l'intelligence artificielle.
Ça va être un ordinateur géant qui va être, être dans le dugout. Moi, je déplore ça. Je suis un peu plus vieux. Autrefois, là, quand je voyais des bons duels de lanceurs, là, tu voyais là, Bob Gibson à Saint-Louis, au Parc Jarry, là, et Don Drysdale qui lançait 8-9 manches. Il y a un match, là, écoutez, je suis au Parc Jarry, je couvre le match. Ce soir-là, je remplace, je pense que c'est Jean-Paul Serrault qui a pris une soirée de congé. C'est G.R. Richards qui lance pour les Astros. C'était toute une pièce d'or.
Ben oui, je me souviens.
Savez-vous combien il a fait de tirs ce soir-là? 162.
Hey, puis les gars, c'était pas des
rotations complètes.
C'est incroyable.
Il y a eu, je sais pas, au mètre trois bâton. On arrive dans le vestiaire des Astros au stade olympique. James, il est assis. Il était bien étendu, puis là, il mange en même temps.
Ben, relax, puis comme si t'as rien
n'était. Puis là, on dit, fatigué? Fatigué? What do you mean? Tired? Non.
C'est lancé aux quatre soirs, Marc. C'est des rotations de quatre dans le temps. Là, c'est des rotations de cinq.
Puis c'est pas juste le baseball, là, le hockey aussi un peu. Moi, je trouve qu'on veut trop spécialiser. Il y a trop de spécialisation. Ouais. On tue le sport en faisant ça.
On tue ce que j'ai dit tantôt, le feel de la game, le feel du coach, de son tout l'instinct.
Mais vous avez raison de le mentionner, mais le point tournant de ce match-là, c'est que Kikuchi rentre, il donne coup sûr, but sur balle, coup sûr, les Twins marquent deux points, puis tu regardes sur les bancs des deux équipes, là, allez revoir là, les images. Les joueurs des Blue Jays, ils ont la mâchoire à terre. Ah ouais. Ils en reviennent pas de ce qui vient de se passer.
Ben non. Puis là, l'autre bord sont contents. Ils se disent,
sûr. Mais je pense... L'autre bord sont comme, ils viennent de sortir notre plus gros problème qui était sur le terrain.
Mais je pense, Philo, puis messieurs, je pense que le problème à Toronto, là, il est au-delà de ça. D'abord, il y a une autre affaire qu'il faut mentionner. OK, ils ont enlevé Berrios sans aucune raison. Ils n'ont pas frappé non plus. Là.
Non.
Ils n'ont pas frappé. Mais je pense que cette équipe-là a un problème organisationnel présentement.
Ben, en tout cas, Atkins et Shapiro, moi, je pense qu'on est convaincu.
J'ai lu quelque chose aujourd'hui d'un ancien confrère qui écrit maintenant sur Facebook. Schultz, on l'appelle Schultzy, qui a travaillé longtemps au Globe and Mail. Il est arrivé avec quelque chose, puis il dit, cette équipe-là, depuis que Alex Antopoulos, ils l'ont tassé, parce qu'il a vraiment été tassé, il dit, c'est plus la même.
C'est une grave erreur.
Un gars de Cleveland, Shapiro, ils l'ont fait passer comme un sauveur, pareil comme quand Mike Babcock est arrivé avec les Leafs de Toronto, souvenez-vous de la conférence de presse, d'un océan à l'autre, sur TSN, et on... Là, ce gars-là, ils sont arrivés, ces gars-là. Le Shapiro est arrivé, il a amené son monde. Puis,
tout le monde amène toujours son monde, regarde.
Elle veut dire, les Blue Jays commençaient à monter à ce moment-là. Là. Il y avait une très bonne saison. La dernière saison de Antopoulos avait une très, très bonne saison. Antopoulos, on connaît son talent pour recruter des bons joueurs. Puis ils ont fait ce geste-là sans... Il n'y avait pas de raison de poser ce geste-là. Mm-hmm. Aucune raison. Mm. Là, il faut regarder du côté du propriétaire. Là, c'est M. Rogers. Edward Rogers.
Ah, je pense mais, qu'il... Je sais pas s'il va prendre une grosse décision. Je pense qu'ils vont rester là, mais...
Je regarde dans... Tu sais, on n'est pas là, là. Mais je regarde dans l'abri des joueurs pendant les matchs. C'est trop relax dans ce dugout-là.
Oui, oui, ça va prendre plus de discipline, mais aller plus loin que ça. Là, que, il y a une couple de gars qui devraient avoir un gros hiver de camp d'entraînement. Vladimir devrait se présenter top shape. Ouais. Kirk devrait se présenter top shape.
Vladimir
et mettre un petit peu d'ordre
que
là-dedans.
J'aime beaucoup, comme tous les Montréalais, pour les raisons qu'on connaît. Puis c'est un bon joueur. Mm-hmm. Moi, je pense qu'à quelque part, là, il n'est pas sous la coche. C'est pas son père. On va s'entendre, là. Il n'a pas montré encore que c'est son père. Puis il doit être plus professionnel et mais plus sérieux.
Il y a deux choses, par contre.
Rapidement, faut la pause, Philo.
Dans les deux dernières années, là, ils ont perdu Teoscar Hernandez puis Marcus Semien.
Ouais. Ben, deux ils ont gars choisi de perdre. Ils ont choisi
ben, c'est, des, ça. C'est ça. Mais ça, là, c'est des 30-40 coups de circuit garantis par année. Mais ben, là, on voit l'alignement. Il n'avait aucune profondeur. Donc, toute l'année, là, les lanceurs se sont amusés à viser les coins contre Guerrero, contre Bichette. On leur donne pas des tirs de qualité. Au pis-aller, ça va être un but sur balle. Mais on va défier les Kirk, on va défier les Belt, les Merrifield et tout ça, en sachant que au pis-aller, ils vont frapper un coup sûr, mais pas plus. Moi, je pense que les dirigeants ont vraiment une grosse part de respect. Tu peux pas perdre deux gros bâtons de même dans ton alignement puis penser que ton attaque sera pas affectée. C'est impossible.
Les gars, on va faire une première pause dans cette discussion. Beaucoup d'autres sujets, des sujets hockey, un autre sujet baseball, parce que Philo, t'as écrit un texte la semaine passée. Tu sais, je t'en ai parlé, on en a parlé en privé. Mm-hmm. Moi, je pense pas que le baseball va venir à Montréal, mais quand même, t'as peut-être un argument pour nous faire vaciller.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Petit débat potentiel sur un autre sujet baseball avant de plonger tête première dans les sujets hockey canadien et autres sur la possibilité que le baseball majeur revienne un jour à Montréal. D'entrée de jeu, je vous le dis, j'adorerais ça. T'sais, on l'a laissé partir comme avec les Nordiques. Malheureusement, on n'a pas assumé ce qu'on avait, on n'a pas apprécié ce qu'on avait. Prenons soin des équipes que nous avons encore. Je n'y crois pas parce que tout ce qui repose sur de la volonté politique, c'est comme reposer sur du vent. Et toute initiative sérieuse de sport professionnel à part, puis je les félicite d'avoir construit le Centre Molson sans aide gouvernementale, il y a personne qui est prêt à mettre ses billes là où c'est nécessaire. Fait que si ça repose sur des élans gouvernementaux, il se passera rien. Si ça repose sur une rénovation du stade olympique, il se passera rien. Je sais même pas s'ils vont le rénover. Ils disent qu'ils vont le rénover. Ça fait 20 ans qu'ils disent qu'ils vont le rénover. On n'a jamais eu le courage d'assumer ce bâtiment-là. Alors, si vous me demandez, puis je me le demande, crois-tu au retour du baseball à Montréal? La réponse est non. Philo, toi, tu y crois? Pourquoi?
Ben, en fait, est-ce que j'y crois? Ce que je peux vous dire, parce que j'ai fouillé le dossier pas mal là, dans les dernières semaines, j'ai des informations privilégiées que je peux partager puis d'autres que je peux pas partager. Ce que je peux vous dire, c'est que si Montréal soumet une candidature, le baseball majeur va la considérer sérieusement. J'ai parlé à quelqu'un récemment qui a ses entrées au baseball majeur et qui a dit... C'est sûr qu'ils vont regarder vers Montréal. C'est le plus gros marché en Amérique du Nord qui a pas d'équipe du baseball majeur et de loin. Et juste pour ça, c'est sûr qu'ils vont regarder. Maintenant, est-ce qu'une
qui
candidature...
Qui va présenter une candidature? Puis tu sais que la job du baseball majeur, c'est d'avoir le plus de candidatures possible.
C'est sûr.
Ça,
c'est
le sûr. Job de garder la porte ouverte à tout le monde. Tu sais, c'est... Mais pas pour dégonfler tes informations, parce que tes infos sont tes infos, mais tu vois-tu quelqu'un présenter une candidature, Philo?
Ben, moi, je pense, mon pif me dit que M. Bronfman va encore être dans le débat. Moi, j'ai l'impression que tout ce qu'on a fait pour aider le baseball majeur à mousser cette fameuse idée des villes sœurs qui a accouché d'un nouveau stade maintenant du côté de Tampa, on va pas... revirer ça.
Financier.
Exactement. On va au moins s'asseoir avec lui à la table pour dire, as-tu de l'intérêt? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire quelque chose avec Montréal? Après, on sait que le terrain au bassin Peel, je me suis fait confirmer par Dave Imco, c'est trop tard. Il n'y a plus de plan pour le stade. C'est terminé. Alors,
comme
moi, je...
qu'on envisageait en dessous du Centre Bell, en bas du Centre Bell, dans le temps qui était un beau
moi, endroit. L'équation que je fais, les gars, c'est pas compliqué. Le stade, tu viens de le dire, là, ça va devenir un enjeu de sécurité très bientôt avec le problème de l'anneau technique. On va parler de rénovations qui vont frôler le milliard de dollars. Il y a personne qui veut payer ça. Ni moi, ni le gouvernement. Il y a personne. Mais moi, je pense que la seule façon justement, de régler ce problème-là, c'est de mettre un locataire à temps plein dedans. Si t'as une équipe du baseball majeur qui est prête à revenir, ben, tu rénoves le stade, tu le transformes en parc de balle, comme les parcs sont faits aujourd'hui, et tu dis, ben, la nouvelle équipe de baseball va rentrer ici, va payer un loyer, mettons, de 20 millions de dollars, je dis n'importe quoi par année.
Hey, Philo, le jour qu'ils vont commencer les travaux du stade, là, je te dis, je fais un gros party, ça arrive.
Ah, ben non, c'est ça sûr. Pas, ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, Mario, ça va tomber sur quelqu'un, cette affaire-là. C'est
ben
ça qui va arriver.
Ben ça a déjà tombé. Il y a déjà des morceaux qui ont tombé dans le champ. Il y a
je comprends. Je comprends. Mais là, ça donne que on a besoin de changer l'anneau technique et ça donne que le baseball majeur va procéder à une expansion. Ils vont lancer le processus dans 12 à 18 mois. Donc, moi, je pense que là, on a une réflexion importante à faire parce que si on passe à côté de l'expansion du baseball, ce stade-là, on va le rénover avec notre argent puis il va être vide après dedans. Il n'y aura pas de locataire permanent. Donc, c'est pas une solution qui tient la route. Ça prend un locataire dedans. Et si ce locataire-là, regarde Baltimore, il vient de faire 30 ans dans le Camden Yards, il vient de signer pour un autre 30 ans.
Scène. Pourquoi Bronfman, tout d'un coup, qui voulait une garde partagée, puis dans le temps, plutôt que de l'assumer, puis tu sais, c'est facile de parler avec l'argent des autres, il avait ses raisons, pas qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, mais tu sais, ils se sont éloignés de ça, tu sais, ils l'ont jamais assumé, alors que ça coûtait des peanuts. Là, c'est une affaire de milliards. Marc t'écrivait là-dessus. Ouais. Voyons donc.
Moi, évidemment, comme moi, je ne le crois plus pour toutes sortes de raisons. Puis, trompez-vous pas.
Aime le baseball, ça rien à voir.
En tout cas, les gens de notre génération.
Show me the money.
On est des amants du baseball, mais c'est ça. Tu viens de dire le mot. Show me the money. Je me rappelle très bien, je pense que c'est avant qu'on apprenne que le projet de garde partagée, ça marchait plus. Stephen Bronfman avait confié à mon ancien collègue, Régent Tremblay, que là, le fardeau, il voulait pas porter le gros du fardeau financier, là. Ça, parce que, rappelez-vous, là, en 2012...
Ils sont passés pauvres, ça, Max, ce que tu dis là. Parce que dans le passé, il l'a prouvé qu'il voulait pas porter. Puis c'est correct.
En 2012, là, lorsqu'on a commencé à parler du projet de venir faire ressusciter les expos, on parlait d'un million. Puis c'était 500 millions pour l'équipe et 500 millions pour le stade. Ça va faire 12 ans, là. À ce moment-là, quand M. Bronfman est sorti de sa cachette pour dire qu'il était le gros personnage derrière ça, je me rappelle très bien, on lui parlait au Stade olympique, puis il disait, il assistait au match des Blue Jays, 1 million, on est capable de rencontrer ce montant-là sans problème.
Et pas 1 million, mais 1 milliard.
Un milliard. Pardon, ouais, excusez-moi.
Ouais. Il avait dit, money is no object.
Money is no object.
Sur notre antenne,
oui, d'ailleurs. Oui. Mais là, c'était plus ça à la fin, là. Puis là, aujourd'hui, là, la valeur moyenne des équipes du baseball majeur, selon Forbes, cette année, c'est 2 milliards 230 millions.
C'est ça que ça va coûter.
C'est une hausse de 14 % par rapport à l'année passée. Ils vont augmenter encore les franchises. Comment ils font? Je sais pas. Parce que au hockey, c'est la même chose. Puis au hockey, il y a moins d'argent. Mais au hockey, la valeur des franchises augmente annuellement. Ouais. Là, au baseball, là, ça a été 14 % par rapport à 2022. Donc, on s'en va vers le 2,5 milliards pour l'équipe. Le stade, ça va coûter combien? Là, c'est plus 500 millions. Ça va être au-dessus d'un milliard. Et le gouvernement, on a des problèmes socio-économiques au Québec présentement. Là.
Tu sais, ça veut pas dire. Moi, je pense que ça peut générer de l'économie. J'ai toujours pensé que. Il y a du monde qui regarde ça, comme je me rappelle des propos de Lucien Bouchard. Tu sais, ça nous a pas mené grand-chose. Ça va pas mieux les hôpitaux parce qu'on a plus de club de baseball.
Oui, mais
moi,
je suis d'accord avec les gens qui disent, ils font assez d'argent. Qu'ils payent le stade.
Ouais, là, je te rejoins. Puis de toute façon, pour moi, puis j'en parle avec passion parce que j'aime le baseball, mais je pense que je gaspille de la salive d'en parler.
Il n'y a pas un gouvernement qui va embarquer là-dedans. Écoutez, le Québec, là, ça va... Écoutez,
on rêve qu'il y a un astronaute qui va débarquer avec 2 milliards puis là, qui va nous acheter un club.
La seule façon...
Qu'un astronaute arrive avec 2 milliards.
Soit-on-le.
Ça peut être qu'un investisseur de l'extérieur de Montréal, parce qu'il reste que c'est un bon investissement pour un gars qui a bien de l'argent. Et puis, c'est de même, faut le voir. Moi, là, c'est sûr, moi, j'y crois encore. Je suis peut-être naïf, mais j'y crois encore, surtout que le baseball majeur a clairement dit qu'ils veulent faire une expansion. Ils sont à 30 clubs, ils veulent se rendre à 32 au minimum. Oui, il y en a Asheville qui sont très intéressés.
Charlotte et Salt Lake City.
Mais Montréal reste un très, très beau marché de baseball. Ouais. Un des bons marchés de baseball, je pense, en Amérique. et puis en Amérique du Nord. Et puis moi, écoute, ça peut être un gars qui vient là, du champ droit, là, de l'extérieur, qui veut s'impliquer avec des Mitch Garber, des Bronfman, des Molson, des Pelado. Il y en a. On a tellement que ces gars-là veulent se mettre. Moi, je crois encore.
Mieux, ça arrive, chef.
J'ose y croire.
Ben, c'est correct. J'aime ça qu'il y ait encore du monde qui y croit parce que j'y ai cru dans le vide longtemps. Puis là, moi, que, ça s'est dégonflé.
Moi, ce que je dis, les gars.
Sur ce sujet-là, Philo.
Ouais, et ce que je dis, là, c'est qu'on on va avoir une opportunité de rénover ce stade-là et de se le faire payer. C'est d'avoir une équipe de baseball dedans qui va être un locataire permanent pour les 25, 50 prochaines années. C'est la seule façon de
rembourser
les travaux.
Imagines-tu, là, après tout ce qu'on a dit sur le stade, que la bouée du baseball à Montréal, c'est le stade, tu sais, c'est comme... C'est comme aller d'un cul-de-sac.
Je suis pas un spécialiste en construction. Comment qu'ils pourraient faire pour rendre modifier ce stade-là intime pour le baseball?
Ouais.
Tu regardes la configuration du stade. Je vois pas comment. Écoute.
Moi, je suis pas un architecte, là, ou quoi que ce soit. Je suis pas un ingénieur. Mais c'est sûr que la première affaire qu'il faudrait qu'il fasse, c'est enlever le toit, puis défoncer les murs du champ extérieur. Ouvrir ça. Alors, ça, c'est la première affaire.
Regardez vers le ciel s'il y a un astronaute qui est sur le point de débarquer. Qui est comme Sophie nous l'écrit. Ça se peut qu'on se fasse frapper par un astéroïde, mais quand?
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Oui, de retour et avec Marc Defoy, Stéphane Waite, Jérémy Filosa, encore d'autres sujets. On va poursuivre au-delà des informations de 22 heures. Un petit blitz rapide pour vous demander, avant qu'on plonge strictement dans le hockey. Le Canadien est forcément l'équipe la plus populaire au Québec. Celle qui génère le plus de dollars. Même en manquant les séries, ils distribuent de l'argent aux autres équipes de la Ligue par la péréquation. Je vous demande, quelle est la deuxième équipe la plus populaire au Québec? Stéphane, t'as-tu envie de répondre à ça pour commencer?
La deuxième équipe la plus populaire au Québec, j'ai aucune idée. Moi, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour les autres. Puis pas parce que... Non, c'est pas vrai. C'est pas que j'ai pas beaucoup d'intérêt. C'est que pour moi, les autres, le football, on parle des Alouettes ou le soccer avec, je t'ai pour dire l'Impact, là, mais,
Le CF.
Le CF. Et puis, c'est comme, c'est du football ou du soccer de division 2 ou 3. Mm-hmm. Et puis, tu sais, c'est comme le hockey en Suisse, là, pour moi, ouais, tu sais. Et puis, c'est pour ça que pour moi, c'est pas un sport majeur, même si j'intéresse. Ben oui, c'est sûr que je suis nos équipes de Montréal parce que je suis au Québécois.
Ben oui, quand il y a un gros match, faut regarder.
Je te dirais que moi, là, on me parle plus souvent, en tout cas pour moi, puis mon intérêt, puis mes amis me parlent pas mal plus souvent des Blue Jays que de l'Impact, du CF, excusez, ou des Alouettes. Et puis, j'ai quasiment le goût de dire que c'est une équipe de Toronto qui est notre deuxième équipe.
Ben, il y a beaucoup de monde à la messagerie texte qui me disent des Raptors ou les Blue Jays. Moi, j'ai envie, Marc, puis je te relance avant de passer la puck à Philo. Est-ce que ça pourrait pas être le Rocket, l'équipe numéro 2 à Montréal, qui va jouer devant une salle comble pour son ouverture locale? C'est sûr que c'est pas un stade de 20 000.
Est-ce que ça pourrait être la deuxième équipe?
Si t'as un petit texte, un espoir du Canadien, ça fait plus parler que ce joueur vedette des autres clubs.
Ben, je sais que le Rocket, c'est un succès commercial, marketing à 100%, là. Écoute, ils ont misé sur les familles. Et tu vois là, le vendredi soir, là, et le samedi après-midi, c'est rempli. Des enfants avec leurs parents. Là-dessus, là, c'est une réussite totale. Est-ce que c'est notre deuxième équipe? J'aime pas vraiment dire ça, parce que là, si notre deuxième équipe, c'est une équipe de la Ligue américaine, notre ami Stéphane parlait, puis non, ça a raison, que quand on regarde le football, c'est de troisième division, puis le soccer aussi, puis c'est vrai. Puis nos études de marché au Journal de Montréal nous disent que les gens, les Alouettes, puis les CF Montréal, là, l'intérêt n'est pas très grand. Dans le cas du CF Montréal, moi, je dirais qu'il y a deux choses. Première des choses...
Il y a le potentiel d'être la deuxième équipe de Montréal.
Première des choses, là, ouais, ce que j'entends du CF, puis ça, j'en ai entendu parler par plusieurs, là, ils font rien pour se rapprocher du public. Des médias, là, c'est un fiasco, ça.
Plus ça change, plus c'est pareil,
malheureusement. C'est un fiasco sur toute la ligne. Deuxième chose, nous, au Québec, en Europe, OK, le soccer fait partie des mœurs, comme nous, le hockey fait partie des mœurs. Là, quand tu dis, ben là, on vend des joueurs... Le succès, là, c'est de vendre des joueurs. On parle pas de championnat, on parle pas d'aller chercher la Coupe MLS. La réussite, là, c'est de vendre des joueurs. Et toi, t'as l'académie, Puis là, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des joueurs qui vont sortir de l'académie qui vont être assez bons pour aller se produire dans d'autres pays, puis on va les envoyer ailleurs. C'est quoi? Moi, on n'est pas habitué à ça au Québec.
C'est une ligue de deux, troisième division. Ouais. C'est pour ça.
Ben oui. Mais tu sais quoi, on est habitué à ça. Philo, je te laisse ta parole tout de suite après. Dans le sens, mais pas parce qu'on le souhaitait, Marc, mais les expos en ont vendu des joueurs parce qu'ils ne voulaient pas y payer.
Mais les expos, c'est
contre notre volonté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu des équipes des ligues majeures qui ont payé comme des équipes des ligues mineures, malheureusement. Philo?
Bon, OK. Écoute, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus, bien sûr. Moi, je me promène partout dans la MLS, là, puis de plus en plus, ça grossit. La popularité devient plus grande parce que les autres équipes se dotent de joueurs qui peuvent jouer dans les meilleures ligues au monde. Donc, le potentiel, il est définitivement là. Le CF Montréal vaut quand même 375 millions de dollars. Je pense que les Alouettes viennent d'être vendues pour à peu près 10. Tu sais, il n'y a pas de comparaison à ce niveau-là. Mais ça prend un propriétaire qui a une volonté. Moi, je pense que le potentiel est définitivement là. Mais la réponse, c'est qu'il n'y en a pas d'équipe numéro 2 à Montréal. Comme Stéphane disait, regarde, je vais ressortir mon enquête, Mario. Depuis le 11 août dernier, je me promène partout dans Montréal et je note dans mon téléphone à chaque fois que je vois une casquette ou un chandail d'une équipe sportive. J'exclus le Canadien parce qu'on sait déjà qu'ils sont numéro 1. Voici ce que je récolte jusqu'à maintenant. 24 casquettes des Expos, 23 casquettes des Blue Jays, une des Royaux de Montréal. CF Montréal, 0 en 2 mois. Impact de Montréal, donc les vieilles casquettes, le vieux logo, 2. Alouette, 0. Fait que ce qu'on est en train de dire quand on parle de popularité, c'est qu'il y a un club qui est mort depuis 20 ans, puis il y a un autre club qui joue dans une autre ville, puis c'est ça nos deux équipes qui sont les plus populaires. C'est fou, mais c'est ça.
Mais après le Canadien, où voit-on les plus grosses foules pour un événement sportif à Montréal? Grand Prix du Canada.
Ouais. C'est
quand même ça, là.
Oui.
Le Grand Prix du Canada, il y a combien de monde la fin de semaine? 150 000, 175 000. Le tennis, c'est un succès à chaque année, que ce soit des hommes ou des femmes. Les amateurs sont au rendez-vous. Pendant une semaine, ça roule. Il y a plein les gradins sont remplis au Parc Jarry. Je pense que c'est ça maintenant c'est pas des sports d'équipe, mais je pense que c'est ça là.
Au territoire québécois, les gens contribuent via la messagerie texte. Bon, il y a des gens qui suggèrent les capitales, mais tu sais, je pense pas qu'on peut considérer. Puis c'était fun là, de regarder ça. Bravo. Suggère le Rouge et Or, puis pas nécessairement des gens de Québec, même des gens de Montréal qui me disent j'ai un 514 ici qui dit le Rouge et Or football. Il y a les Carabins, mais tu sais, je pense pas là que tu sais, soyons sérieux.
Non,
mais
c'est le fun. Il reste que je pense que le CF Montréal est plus populaire.
Puis tu sais, le CF a déjà mis 55 000 et plus dans le stade à plusieurs reprises sous le nom de l'Impact. Ça veut dire c'est pas tout le monde qui a le potentiel de remplir un amphithéâtre de même stuff là.
Mais les Blue Jays ont mis deux matchs par année, des matchs sans signification du camp d'entraînement, 50 000 et 50 000.
C'est ce que j'étais pour dire. Les deux fois, j'étais là, et puis, écoute, c'est des matchs hors concours.
C'était les matchs qui veulent rien dire.
Avant la pandémie, et puis c'était... Ça prouve tout que c'est une bonne ville de baseball.
Et la personne à qui j'ai parlé cette semaine, c'est ça, la personne m'a dit que ça a laissé une très belle carte de visite par rapport à Montréal. Juste vous dire, hier, le CF Montréal, en pleine course aux séries, il y avait 13 000 chrétiens, il faisait 28 degrés hier soir.
C'est ça. 13 000 personnes.
Ouais. C'est ça, 6 500 places de vide.
Par une température d'été.
C'est ça. Là, en pleine course aux
séries. Les Alouettes, lundi, c'est congé, c'est l'action de grâce. J'ai hâte de voir combien de gens il va y avoir.
Aux Alouettes? Ben écoute, j'aimerais ça. Normalement, le lundi, il y a toujours une vente. Ça va peut-être être la plus belle. Il y a toujours une belle pré-vente. Je serais pas surpris que ce soit la plus belle foule de la saison.
Les Alouettes et l'Impact sont devenus deux équipes qu'on va voir pour faire une sortie. Tu sais, à part ceux qui sont derrière les filets, qui sont vraiment des fans. Mais les autres, là...
C'est une sortie plus que d'aller voir l'équipe. Mais Philo,
un billet à 20 $.
Il reste une minute avant pause. Pensez-vous que si les Alouettes, on jase. Ben là, c'est pas cette année. Mais mettons que les Alouettes... Il remplirait-tu le stade olympique s'il retournait à Coupe Grey, si ça avait lieu à Montréal?
Oui.
Ou une demi-finale de l'Est? Parce que ça devient de l'événementiel, ça.
Oui,
probablement.
Coupe Grey,
Oui. En arrière de la console, c'est des pouces dans les ailes, irait.
Il y aurait des chances.
Oui, puis ça peut que ça soit cette année.
Tu sais, dans les Canadiennes, tout est possible. Mais le match de Coupe Grey n'aura pas lieu au stade olympique. Mais,
c'est vrai, oui.
Ouais, mais on peut pas. Je veux dire, on jase.
Ça prendrait un nouveau stade aussi.
On est même plus capable d'en recevoir la Coupe.
C'est bien beau, le petit stade dans Montréal. On a une belle vue sur la ville, mais c'est un stade qui a plus de 100 ans. Écoutez, là, les commodités, les concessions, puis tout ça, là, c'est pas fort, là.
Non, mais on fait dur. Mais regardez ailleurs dans les Canadiens.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ouais. Dire, le soccer et le football, on le voit à Toronto, là. Les organisateurs, tu joues au stade du FC Toronto depuis 4-5 ans, là.
Plutôt que tout le monde se parte sa business sur son bord, à un moment donné, on devrait s'en compte. Vrai stade, une véritable infrastructure qui peut être partagée entre quelques équipes avec une surface amovible. C'est ça, le présent et l'avenir, si avenir il y a. Bon, ça, c'était le réchauffement, les gars. Êtes-vous bien réchauffés? C'est pas pire. Je pense qu'on commence à... Oui. Et là, quelques bons sujets de hockey. Fait que là, on s'est gardé ça pour le dessert. Donc, les informations avec Guy Simon, on va aller voir ce qui se passe en ce bas monde. Quelle est la dernière déclaration bizarre de M. Trump au sud de la frontière? Je l'appelle monsieur, imagine.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
Avec Stéphane White, Marc Defoix du Journal de Montréal, Jérémy Flouza du 98.5, et là, on plonge dans le hockey, les gars. Est-ce que le Canadien, sentez-vous que c'est une équipe qui est prête à entreprendre sa prochaine saison? Stéphane, t'es notre analyste ici autour de la table ce soir, alors je te passe ta rondelle dans un premier temps. Guillaume, t'as pas convaincu que l'équipe t'a prête hier? Il trouve que pour une équipe qui a fini dans le cave, on est lousse un peu.
On est lousse. Très lousse, c'est pour ça. La vie est belle. La vie est belle. On perd, on finit... Oh, mais la vie est belle. Mais non, je pourrais... La question, ils ne sont pas prêts, à mon avis, et pour plusieurs raisons. Je revois les mêmes tendances en avantage numérique que l'année passée. L'avantage numérique n'est pas prêt. J'ai encore des problèmes avec notre fameuse défensive de zone homme pour homme. J'ai vu dans le camp d'entraînement, dans les 5 matchs qu'ils ont joué jusqu'à date, encore des free-falls dans notre zone où quand on perd notre homme... Là, tout le monde est mêlé, ça a de l'as. Ça, on n'a pas réglé ça encore. La longueur des fameuses présences, ça a de l'as. Encore dans le camp d'entraînement, c'est un problème qu'on avait l'année passée, on l'a pas réglé encore.
Les punitions,
c'est un problème qu'on avait l'année passée, on l'a pas réglé dans le camp d'entraînement encore. Et les performances des gardiens de but, encore là, je veux surtout pas blâmer les gardiens de but, mais je trouve qu'ils n'ont pas retrouvé le synchronisme, ils n'ont pas... Pour une raison, il manque de répétition. Pourquoi qu'il manque de répétition? Il a emmené 9 gardiens de but au camp. 9! J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelque chose de proche de même. Le plus que j'ai vu, moi, au Canadien national, c'est 6. 9 gardiens de but qui fait quoi? Qui t'enlève des répétitions dans les entraînements, dans les matchs simulés et dans les matchs hors concours. Sans oublier qu'on a droppé, on a tombé de 8 à 6 matchs hors concours. Donc ça, des gardiens de but, là, déteste ça, le manque de répétition, le manque de situation de match, le manque de lancer qu'ils n'ont pas eu, c'était pauvres gardiens de but.
Penses-tu qu'à 3, vas-y, continue.
J'ai vu un Samuel Montembeau donner au moins 2 mauvais buts dans le match et une période que joué. Parce que le total, c'est un match et une période que joué à date, ce qui est pas beaucoup. Et c'est pas de sa faute. Il a besoin de voir de l'action, il a besoin de répétition. J'ai vu Jake Allen donner un très mauvais but sur le dernier match, sur le premier but. Pas de sa faute. Il manque de répétition. Caden Primo, la même chose. Donc, tous ces éléments-là me font croire que les Canadiens, ils sont pas prêts.
Et beaucoup de bons points. Marc, t'as sans doute envie de rebondir, mais on avait dit à la fin de l'année passée que les attentes seraient plus hautes cette année, mais on s'est empressé de défaire ce message-là en revenant cette année. Hein? Puis, t'as-tu l'impression que ça va être géré pour qu'on pêche encore dans les 5-7 premiers?
Ben, si le Canadien repêche 5e, ça veut dire qu'il n'y aurait eu aucune amélioration. Parce que le Canadien, cette année, a repêché 5e. Et on dit qu'on veut une progression. Donc, il va falloir que le Canadien termine, disons, quand même...
Un peu plus haut. 20,
tu sais, ils ont quand même 28e, là, ils sont partis de 32, ils sont allés à 28. Donc, de 55 points à 68 points.
22 victoires, 31.
Une bonne amélioration en termes de chiffres, là. Je parle en termes de stats. S'ils pouvaient jouer pour 500 cette année, ça serait un grand pas. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Mais j'aimerais... apporter une réflexion sur le camp d'entraînement. Puis Stéphane, je pense qu'il peut nous répondre à ça sûrement. À partir du moment, là, aujourd'hui, là, d'abord, les camps d'entraînement, les équipes là, sont pognées avec le plafond salarial. Hein?
Clairement.
Donc, on sait pas mal, on connaît pas mal les joueurs qui vont être là.
C'est sûr.
Pourquoi ne pas faire un camp d'entraînement simplement avec, disons, des joueurs qui sont... assurer d'un poste et ceux qui peuvent aspirer à un poste. Quand tu commences un camp d'entraînement avec combien qui était cette
70.
Année? 70. Ça n'a pas de bon sens.
Ouais, avec les blessés, là.
Pourquoi? Puis, tu sais, puis Stéphane a apporté un bon point. Des gars, ils manquent d'entraînement, ils manquent de pratique, les gardiens. C'est pas en faisant un camp d'entraînement comme on voit là que tu peux faire ça. Moi, je pense que, écoute, là, quand t'as 30 joueurs au camp... Là,
penses-tu quand ils vont vouloir c'est... gagner qu'il va y avoir autant de monde que ça au camp? Tu sais, c'est...
Ben, ils posaient la question.
Parce que Martin Saint-Louis dit que ça prend plus que 20, mais, ouais, mais... je comprends ça.
Moi, je dis ça devrait pas plus être que 30 joueurs.
Non, moi, je suis d'accord. C'est, ben, peut-être pas 30, mais quand j'ai vu la liste, là, 70, je pense, avec les blessés, c'était 75. Quand j'ai vu qu'il y avait juste 6 matchs cette année, moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il n'y aura pas autant de joueurs que dans les années passées, mais tu vas les mettre où? Tu sais, comme Stéphane vient de mentionner, ton gardien qui potentiellement va être ton numéro 1 à date, il a joué un match et une période. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. C'est pas suffisant. Là, si je retourne à il y a une couple d'années, souvenez-vous, la saison 2021-2022, on sortait de la pandémie, le Canadien, c'était clair au camp d'entraînement que l'équipe serait pas prête à débuter l'année. Ça avait commencé avec 5 défaites consécutives. Vous vous en souvenez sûrement cette année-là. Ça a été malheureusement là, de la dernière année de Dominique Ducharme où il a été congédié. Mais cette année, la réalité, c'est qu'on a un paquet de jeunes. Tu sais, on avait quelques vétérans à la ligne bleue l'année passée qui étaient supposés être là. On a eu beaucoup de blessures. Mais cette année, les défenseurs numéro 5, 6 et potentiellement 7, on verra. Mais ça va être des jeunes, puis ils vont faire des erreurs, puis...
Ben, il y en avait l'an passé déjà des jeunes, et...
Oui, mais on avait quand même certains joueurs...
Pas mal les mêmes que l'an passé. Tu sais, Norlinder, je pense, c'est plus un mirage qu'autre chose. Ouais. Il n'y a pas de place pour lui dans l'alignement, là, puis tu sais, puis j'y enlève rien, tant mieux si il m'a amené, il gagne un poste, là, mais...
Ce que je veux dire, c'est que ils sont peut-être pas prêts à débuter l'année, mais c'est une continuation de où ils sont partis la saison dernière, puis on espère que durant la saison, ça va s'améliorer sans avoir d'attente.
Si on veut être prêt, parce que ça commence mercredi, c'est dans 6 jours, ça. Fait que si, prêt, pas prêt, là, des 31 d'autres clubs, les autres, ils vont de l'aide. Fait qu'ils n'ont pas le choix.
Les gens embarquent dans la conversation, Marc, Stéphane et Jérémy. Bon, quelqu'un dit, voulez-vous bien slacker avec vos attentes et vos critiques en lettres majuscules, comme s'il fallait hausser le ton? On est en reconstruction!
Ben, je suis le premier à le dire!
Je ne suis pas d'accord, dit un autre. Si le CH était dans la course, tu ne fais pas ce genre de camp. Mais là, le CH bâtit sa culture. Jean-Pierre de Montréal dit, je suis pas d'accord pour les gardiens. J'ai été gardien, j'ai même eu besoin de 5-6 games pour revenir à mon top. Les pratiques, c'est rendu presque comme des games, juste des tirs pour les réflexes. Alors, on peut réagir.
Non, mais moi, je suis le premier à dire, regarde, allons-y mollo, là, on sait que ça va prendre du temps. Mais ça veut pas dire qu'il faut garder passer le train non plus, là. Il y a des décisions à prendre, puis à un moment donné, là, foutu. Bon, il va instaurer une culture. Instaure une culture gagnante. Peu importe avec les moyens que t'as. Forcé.
Mais moi, il y a une chose que j'aime, les gars, c'est que je suis content de voir que Logan Mailloux et Josh Warwa vont commencer l'année à Laval. Parce que moi, j'ai aucun problème. On a souvent critiqué le Canadien parce qu'on a dit, on a fait monter des joueurs trop rapidement. On les a perdus. On regardait vers les Red Wings. Souvenez-vous, les Red Wings sont patients, même s'ils perdent les joueurs, ils font le temps qu'ils ont à faire dans les ligues mineures avant de monter et tout ça. Je recule, là, il y a plusieurs années. Mais moi, je pense que les bonnes équipes font ça. Les bonnes équipes permettent à leurs jeunes joueurs de talent d'aller dominer en bas avant de leur donner un rôle important dans la Ligue nationale. Donc, voilà.
J'aimerais poser une question, Stéphane. J'aimerais poser une question aux gens qui nous critiquent parce qu'on justement on est peut-être un peu sévère dans nous. Si vous étiez à Buffalo, là, qu'est-ce que vous feriez? Ça fait 12 ans, les autres, qui n'ont pas fait les séries. 12 ans.
En tout cas, moi, je veux pas qu'on les imite, mais en choisissant d'aller volontairement, en choisissant de plonger, on a choisi d'emprunter le même chemin que toutes ces organisations-là.
On sait tous qu'ils ne feront pas les séries cette année. On le sait, là, c'est écrit dans le ciel. Hein? Il n'y a pas de surprise là. Il n'y a personne qui va tomber de sa chaise. On peut espérer quand même de l'amélioration. Si ça s'améliore pas, on n'est pas sorti de l'auberge.
On parle de bâtir une culture, puis on a eu un message comme de quoi, calmez-vous, on essaie de bâtir une culture. Justement, on essaie de bâtir une culture. Et puis, moi, là, dans le temps que j'étais dans la Ligue nationale, ça fait pas 30 ans, là, ça fait une couple d'années, là, ceux qui venaient au camp d'entraînement, là, c'était mérité. Puis ceux qui jouaient des matchs hors concours, c'était mérité. Puis les meilleurs joueurs au camp des recrues étaient invités au gros camp. Les autres, t'as pas invité.
Et voilà.
Et puis, on n'invitait pas les gars qui avaient joué dans East Coast League l'année d'avant. Cette année, ils sont tous là. C'est tout le monde est là, sans nécessairement l'avoir mérité. Puis c'est là que je me dis, tu veux partir une culture, faut que tu mérites de faire partie du grand camp. Faut que tu mérites de jouer un match en concours.
Je fais l'avocat du diable sur ton argument, je trouve ça intéressant. Je prends des accords, mais ça va rejoindre un petit peu le commentaire, puis je pense que c'est ça leur philosophie, visiblement. C'est comme son taux ou comme dans la première phase de leur processus, d'être le plus inclusif possible. Y a-tu de quoi de positif à ça, même si tu ne l'as pas mérité? Ben, non, mais je sais pas.
J'ai été élevé dans un contexte où tout ce que tu as, tu participes au gros camp, faut que tu le mérites. Tu veux avoir un match hors concours, faut que tu le mérites. Ce qui n'est pas le cas depuis 2 ans, c'est tout le monde à son nanane. Tout le monde, on fait plaisir à tout le monde. Mais à bout de la ligne, c'est pas de même qu'on construit une culture, me semble.
Ils vont-tu construire une culture en dépensant l'argent disponible sur le marché des joueurs autonomes, puis là, oups, on va penser que ça va faire de la magie? Moi, je pense pas que c'est
non.
ça.
Non,
mais il y en a
culture,
beaucoup qui pensent ça.
Jeunes.
C'est que là, ils vont libérer de la masse. Quand il va y avoir de l'argent disponible, le monde, ils vont dire quoi, tu penses? Ils vont dire continuer de repêcher dans les 5-7 premiers ou dépenser l'argent. Ouais. Tu sais que le monde veut une équipe qui dépense au plafond, Marc.
Des joueurs, oui. Mais des joueurs là, autonomes, là, des grands noms, là. Il y en a plus beaucoup maintenant, là. Parce que les joueurs, maintenant, quand tu repêches, bon, j'ai un contrat d'entrée de 3 ans. Mais si ton joueur répond, tu penses que ça va être autour de lui, tu vas bâtir. On l'a vu avec Suzuki puis Caulfield. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas traîné, ouais. Là. On les signe pour 8 ans. Puis toutes les équipes font ça.
Non,
maintenant.
Mais... Oui, si, écoute, ça n'a pas besoin nécessairement d'être via le marché des joueurs autonomes. Mais non. Il va venir un temps où, à un moment donné, tu espères que ton équipe va arriver à une certaine maturité où tu vas dire, bon, ben là, à la date limite des transactions, contrairement aux 4 dernières années, au lieu d'être vendeur, on va être acheteur. On va essayer d'ajouter 1 ou 2 éléments d'expérience, des valeurs sûres, qui ont peut-être un contrat pour encore une autre année ou 2, pour venir pallier et compléter ce groupe-là de jeunes. Mais on n'est pas rendu là.
Je suis d'accord.
On n'est pas rendu là.
Quelqu'un pose
d'accord,
une question pour Steph?
Une chose avant, j'ai adoré l'entrevue que tu as faite avec Pascal Vincent cette semaine. Quand il a dit, à un moment donné, il dit, c'est pas compliqué. Si on finit pas avec une meilleure fiche que l'année passée, des meilleurs résultats que l'année passée, ça va être une année décevante.
Et voilà.
Et puis, j'ai adoré ça.
Parce qu'à un moment donné, il faut mesurer par les résultats
aussi.
qu'on comprenne ce que Martin veut dire, le coach, quand il dit que, ben, ça dépend comment tu évalues le succès. Mais tôt ou tard, tu vas l'évaluer par des chiffres.
Ben, des victoires.
Ça va être la position au classement.
Ça va faire un temps,
ça,
là.
Des victoires, des points, là. C'est ça, là. Qu'on le veuille ou non, là. C'est ça.
Combien de temps ça va faire, ça, Philo? L'attitude de Martin, c'est-à-dire, ça dépend comment on évalue le succès. Tu penses que ça peut durer longtemps, ce message-là?
Moi, je pense que cette année, c'est la dernière année où on va accepter, en sachant d'avance qu'il n'y a pas vraiment d'espoir de faire les séries éliminatoires. Moi, ce que je veux, là, c'est que l'équipe soit pas éliminée au mois de janvier. Je veux que l'équipe joue des matchs qui ont une certaine signification au printemps. Et si on fait ça, on aura fait un pas en avant. Donc, tu sais, c'est sûr, on gagnera pas la coupe, on se rendra probablement pas aux séries éliminatoires, mais je pense que, tu sais, il va y avoir un petit peu de bois mort, possiblement qu'on va pouvoir passer dans des transactions, peut-être à la date limite ou l'été prochain, on verra. Mais à partir de la saison suivante, tu sais, quand Goulet va être rendu à sa 3e année, il va commencer à y avoir des attentes.
Quelques réactions du public, les gars, puis vous pourrez rebondir là-dessus. Les Canadiens ne seront pas acheteurs pour les 5 prochaines années. Et de la même personne, se comparable au fond, une culture beaucoup. De champion, point d'exclamation, pour être les meilleurs, il faut se comparer aux meilleurs. Et quelqu'un demande, puis j'imagine que ça vise Stéphane, parce que tu as passé des années à Chicago, 2 Coupes Stanley, quelle sorte de culture à Chicago dans ces temps-là, et tu y reviendras, je vais en lire quelques autres, mais Nicolas dit, est-ce que Kent Hughes, son plan n'est pas juillet 2025, il y aura environ 25-30 millions disponibles, les jeunes seront développés, supposés, il y aurait de l'argent pour 1 ou 2 super vedettes. Il n'y en a pas de super vedettes qui vont sur le marché des joueurs autonomes. On peut bien rêver en couleur. À part Marianne Ossa qui est arrivée à Chicago. Mais c'est à quoi tu peux peut-être répondre à ça? Ah, puis j'en ajoute un autre. Relaxez, s'il vous plaît. Un peu de calme. Soyons positifs et optimistes, s'il vous plaît. Les bonnes décisions se prennent en ce moment. Aucune patience au Québec. Et le final, ça prend pas 3 ans dans les bas-fonds pour bien reconstruire? Tu sais, ça serait-tu une bonne affaire qu'ils repêchent 5e une autre fois?
Non, je pense qu'à un moment donné...
Au-delà de l'instantané, on peut peut-être voir des signes de progression chez les jeunes.
Si tu repêches 5e, ça veut dire que tu vas avoir une autre saison où tu n'as pas eu d'amélioration.
Et voilà.
Et puis, ça, c'est inquiétant. Et puis, donc, si tu repêches 5e, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que notre progression, on n'y en a pas. Donc, puis la culture à Chicago, c'est pas compliqué. On l'a bâti avec des jeunes. des jeunes de caractère, pas seulement du talent, beaucoup de caractère. Et puis, que quand que ce groupe-là était prêt, était le noyau est venu à maturité, c'est là qu'on a rajouté des Mariano, ça, des Brian Campbell, des gars pour les entourer.
Mmh. Et t'es puis, arrivé en quelle année à Chicago, Steph?
En 2002.
2002, bon. Manqué série, un an, deux ans, trois ans. 4 ans, 5 ans. Je veux juste voir en termes de victoires s'il y avait une progression. Juste pour le fun. OK, c'est le fun. Première année, 30 victoires, mais là, vous deviez avoir encore des vétérans. Vous n'aviez pas tout dégraissé.
Ouais, c'est
là, ça. Là, ça chutait à 20, 26, 31. 31, c'est le nombre de victoires du Canadien l'an passé. Mm-hmm. Après ça, 40. Après ça, 46. Troisième ronde.
Mm-hmm.
Tu perds en troisième ronde. Après ça, la coupe.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ça veut dire que si on, mettons qu'on produit le plan de Chicago, là, on est à deux ans d'une finale, mettons.
La coupe, là, la série sur le gâteau à Chicago, j'ai toujours pensé que c'était Mariano, ça.
Ben, je suis d'accord avec toi.
C'était un de mes préférés. Là.
Ben, c'était notre joueur le plus complet. Ben oui, c'était notre joueur le plus complet. Puis ça, t'as raison, Marc, Joel Canville l'a souvent dit, ça, c'est notre joueur le plus complet. Puis c'était, mais on a acquis ces gars-là quand notre noyau de jeunes était mature, était ouais, prêt à gagner. Ouais. C'est là qu'on les entourait.
Quelqu'un nous dit, désolé, mais moi, je souhaite encore un choix top 5. À peu près tous les clubs de la division du CH mais se sont améliorés. L'équipe peut très bien s'améliorer tout en finissant en fin de classement. Je suis abasourdi par vos commentaires.
Mais écoute, je pense que la différence entre nous et la personne qui nous écrit, là, c'est que nous, on est obligés de toutes les regarder du début à la fin. C'est notre job. Puis c'est pénible en maudit.
Ah, mais c'est de la
le gars qui est chez eux, quand ils sont mauvais, il peut en sauter une game où il peut dire, ah, regarde, cette semaine, j'ai regarderai pas, puis on va. Mais pour nous, c'est.
C'est la beauté de l'exercice, je veux dire. On n'est pas obligé d'être du même avis.
D'accord,
là.
Mais non, j'ose.
Puis moi, là, écoutez, moi, j'ai commencé à parler de reconstruction dans le temps du Canadien en 2016-2017. Parce que.
Ben, t'es-tu content, là?
À mon humble avis, puis je le dis comme ça, là, on n'est pas obligé d'être d'accord. OK, le Canadien misait beaucoup sur Carey Price et Shea Weber. Ils n'ont sa raison. C'était les deux piliers du club. Mais je regardais la chorale, le reste de la chorale, là, si je peux
oui,
dire.
Oui,
là.
Oui.
Malgré Price et en dépit de la présence de Price.
Toi, t'étais
et
pas
de
très
Weber,
optimiste.
Non, j'étais pas optimiste. Je pouvais pas gagner la Coupe Stanley avec les joueurs en place. Ça, c'est mon opinion. Mm-hmm. Puis je pense que il fallait passer par une reconstruction, ce que le Canadien ouais. n'avait jamais fait. Avant,
mais tu sais, on parle de la fameuse ligne de centre. Là. On pourrait avoir une ligne de centre. On pourrait. Ouais, ouais. On pourrait avoir une ligne de centre de Suzuki, Dano, Dubois. Tu sais, je veux dire, c'était pas la seule façon d'améliorer un club parce que Weber puis Price n'étaient plus capables de jouer. C'est, là, on a choisi ce chemin-là. Bon, on verra où ça mène.
Lorsque je suis... on a eu un message comme de quoi qui est
abasourdi.
Abasourdi. Oui. Parce que... Mais je comprends pas que ça prend une progression. Et puis, j'ai des gens qui ça ne les dérange pas qu'il n'y ait pas de progression. Nous, si on peut avoir notre cinquième choix l'année prochaine, on va être content. Puis l'année d'après aussi. Puis l'année d'après après. Mais à un moment donné, ça prend une progression.
Oui.
Parce que si tu n'as pas une progression, on a un problème.
Puis des choix au repêchage, quoi qu'on en dise, c'est pas des garanties. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas ce qu'ils vont donner.
Veux-tu qu'on fasse la liste de tous les choix? Non, 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 non.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
Football du jeudi soir de la NFL, juste une petite mise à jour. Tes Bears de Chicago, mon Stéphane, ouais. Sont en train de peut-être gagner leur premier match de la saison, 27-14 sur la route contre les Commanders de Washington. C'était la petite mise à jour. On est avec
Marc. Oui, peut-être c'est ça. Peut-être notre première victoire depuis le 24 août 22.
Hey, donc, notre première victoire, fait que t'es un Bears, vraiment.
Ouais, j'ai tombé en amour avec eux autres quand
mais
j'étais.
Mais juste après jour. Qu'on soit parti en pause tout à l'heure et qu'on écoutait les messages, t'as dit quelque chose en studio, loin des micros, que je t'invite à répéter en ondes.
Non.
J'aurais jamais cru, t'as dit.
J'aurais jamais cru, moi, premièrement, en tant que fan du Canadien, j'ai peut-être un grand fan des Canadiens, j'ai grandi avec les Coupes Stanley dans les années 70, et puis après ça, dans les années 90. Mais c'est dur pour moi réaliser qu'à Montréal, et c'est pas une mauvaise affaire, là, qu'à Montréal, on accepte de... la reconstruction comme ça, parce que dans l'ancienne génération de fans, ceux qui ont connu les Coupes Stanley, n'aurait jamais accepté ça. Et puis,
peut-être une bonne affaire.
Exact. À tort ou à raison.
Ouais.
Et puis, la nouvelle génération de fans qui ont jamais connu une Coupe Stanley, eux, ils acceptent ça. Et
puis, ils ont
ça,
pas le choix.
Et puis, je dis pas que c'est pas, puis c'est rien contre, là. Mais je veux dire, c'est quand même un gros changement de philosophie entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Ouais. C'est totalement différent.
Est-ce que c'est plus sain?
Probablement.
Parce que c'est sûr que, à un moment donné, on peut pas radoter ad vitam aeternam que dans le temps, on gagnait des coupes cette année, parce que, tu sais, les paramètres étaient pas pareils. Tu sais, on a gagné dans la Ligue à 6. C'est que j'enlève aucun mérite à tous les gens qui sont à l'écoute, qui ont gagné des coupes dans la Ligue à 6 clubs, dans la Ligue à 12 clubs, dans la Ligue à 16 clubs, à 17, à 21, à 24. 93, on avait 24 clubs dans la Ligue, si ma mémoire est bonne. On est rendu à 32, tu sais, faut bien faire.
Mais non, c'est ça, c'est, je veux dire, la game a complètement changé. Tu sais, t'es rendu à 32 équipes. Donc, mathématiquement, là, t'es supposé gagner à peu près 3 coupes à chaque 100 ans. C'est à peu près ça, tu sais. et t'as aussi la réalité du plafond salarial. Tu sais, t'avais les années 80, Canadiens pouvaient dépenser tant qu'ils voulaient et tout ça, les Maple Leafs aussi, peu importe. Aujourd'hui, toutes les équipes doivent respecter le plancher et le plafond. Et comme Marc Lefoy te disait tout à l'heure, les équipes gardent leurs meilleurs joueurs, les signent à long terme. Donc, si tu penses aujourd'hui que tu vas être capable de gagner la Coupe à chaque année, puis que t'es pas obligé de passer par le même processus que les 31 autres équipes de la Ligue, ben, tu te trompes, là.
On l'a vu l'an dernier, hein. On pensait bien que Colorado pouvait répéter pour une deuxième année. Ça n'a pas été le cas du tout, hein. Ils n'ont pas fait le long feu dans les séries. C'est sûr que c'est difficile. Il y a 32 clubs, puis peut-être qu'il va en avoir 34 là, avant qu'on finisse l'émission, là, de façon qu'on entend à gauche pas à droite. Là. Ça a l'air qu'Atlanta revient en ligue, là, j'en reviens pas, mais en tout cas. c'est que les gens qui nous écoutent, ben, pas tous les gens qui nous écoutent, mais ceux qui n'ont pas connu les grandes années du Canadien ne peuvent pas réaliser comment c'était. Pour eux, là, c'est plate à dire, mais pour eux, là, Maurice Richard, Henri Richard, Jean Béliveau, c'est des films, des vieux films.
C'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc.
Par le temps, ils sont même plus en noir et blanc, ils sont jaunes maintenant.
Oh oui.
Tu sais, puis je comprends. C'est ça, c'est la vie, c'est le cycle de la vie.
Exactement.
Mais c'est pas une raison. C'est quand même pas une raison, puis j'endosse.
De se satisfaire de tout.
Il faut pas se satisfaire de peu. Il faut être réaliste. Oui. Le Canadien présentement là.
On est là où on est.
On est en droit quand même de demander des résultats. Puis au Centre Bell là, il y a un monsieur qui signe des chèques en haut là, Jeff Molson là. Pensez-vous qu'il en veut pas des résultats lui? Il en veut. À un moment donné, tu sais.
Mais avoue, Marc,
t'as des comptes à rendre.
Avoue que quand tu donnes aux équipes les plus pauvres, même quand tu rates les séries, tu sais. Le business, ça marche, là. T'sais, regarde le matin à Tremblant, puis regarde à Place Belle, c'est sold out, puis...
En tout cas, on vise...
Oui, vas-y, Philo, pardon.
J'ai dit, on vise... On peut peut-être pas viser les sommets de la Ligue à chaque année, c'est pas réaliste, mais les sommets en termes de prix aux concessions puis à billetterie, ça continue d'exploser par en haut.
La progression, il y a une belle progression.
Ah, c'est une progression spectaculaire. Okay, c'est le fun d'enfiler quelques textos. Les gars, je vois que ça... Il y en a qui viennent vous chercher, des fois. Quelqu'un qui écrit, je n'accepte pas la défaite, mais après 30 ans de patchage, je suis prêt à sacrifier encore une saison ou deux pour essayer autre chose.
Je suis d'accord avec ça.
Les temps ont changé, dit Renaud, tout simplement. Jason dit, à quel point le contrat de Price nuit encore à ce jour de se payer un bon joueur qui ferait la différence? Zéro, Jason, il est sur la liste. Il aide. Ça te donne une marge de manœuvre aussi bizarre que ça puisse paraître. Mm-hmm. On est plus tolérant de nous dire un autre. Quelqu'un écrit, je suis un de ces fans qui a connu les coupes de 86 et 93. De dire que je n'aurais jamais accepté la reconstruction ne fait aucun sens. Ça fait 30 ans que le CH n'a pas gagné la coupe et pendant cette période, le CH n'a jamais fait une reconstruction digne de ce nom. C'est là-dessus que je ne vous comprends pas, les gars. Mais ça veut pas dire que tout était de la chenoute. Le printemps à Lac, l'année de Kovalev qui perd son gant puis qu'on va battre les Bruins. L'année de Koivu qu'on fait une série, qu'on retour au jeu. La finale en 2021. Tu sais, c'est quand même, si t'apprécies ça, là.
Il y a une année, je me souviens plus, là, tu parlais du gant de Kovalev, là, lorsqu'il s'était fait cingler par Murray, je pense. Glenn Murray, puis Glenn Murray était allé compter tout de suite. Puis Sheldon me rappelle très bien Sheldon Souris, après ce match-là, avait dit, hey, tu peux pas arrêter de jouer, là. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Hey, Souris, là, il était en beau fusil dans le vestiaire, je peux vous le dire, là. Mais ce que je veux dire.
Mais Kovalev disait que c'est Souris qui était mêlé, il n'y avait pas d'affaire d'être là, sur la glace. Ça, c'est la vision de l'artiste.
Souvenez-vous, là, il y a une année, je pense, c'est 2002. L'année de Koivu, là, ce qui est venu au jeu vers la fin de la saison.
Oui,
quand le Canadien a éliminé Boston 2002. Cette année-là, là, les gens sont descendus dans la rue, puis c'est débris, là.
Ouais.
Ben, je le sais. J'étais avec Mike Bossy en studio à RDS. J'animais une émission qui s'appelait Droite au but, puis on avait un reportage dans les rues, puis il y avait, le monde était dans les rues parce qu'on avait fait les séries ce soir-là.
Ben oui.
Juste fait les séries à trois matchs contre les sénateurs d'Ottawa.
Écoute, c'est qui avait dit, chez Tampa, là, il avait dit, coudonc, Montréal, vous vous comportez comme si vous avez jamais gagné une coupe, là. Parce que le Canadien avait gagné un match en finale, je pense que c'était 3-1 Tampa. C'était Kucherov. Exactement.
Qui avait dit
ça. Mais tout ça pour dire, Mario, que, tu sais, on a eu quelques soubresauts ici et là. Mais une organisation, c'est pas ça que ça veut. C'est pas, ah, hey, te souviens-tu l'année où notre gardien avait gaulé sa tête, puis on était allé loin, puis il y avait eu telle autre année où tout était tombé en place parce que plusieurs autres équipes avaient été éliminées. Non, tu veux une équipe qui a une constance.
Mais t'as pas de garantie pareil, Philo.
Non, non, je comprends.
Aujourd'hui, les gars,
non, mais tu...
dernière question, OK? Pour compléter, Stéphane Leroux s'en vient, mais tu sais qu'à date, là, tout ce que le Canadien a fait, on va avoir une bonne équipe. Je pense que, tu sais, le pipeline, il y a du talent. Est-ce qu'on va avoir une des meilleures équipes pendant les 3 à 8 prochaines années? Est-ce qu'on va être dans la crème de la crème?
Moi, je pense que oui.
J'espère. Ah, tu penses que oui, Philo?
Moi, je pense que le Canadien va se bâtir, est en train présentement de se bâtir une équipe qui peut être parmi le premier tiers de la Ligue nationale puis être considéré parmi les bonnes équipes de la Ligue pendant une fenêtre qui va être ouverte pendant, je sais pas, 4, 5 ans peut-être. On va espérer. Après ça, ben la roue va continuer de tourner. Mais moi, j'aime ce que je vois, mais c'est ça, il faut être patient. Ça va être sur du long terme.
Moi aussi, j'aime ce que je vois. J'aime, c'est une belle reconstruction avec beaucoup de talent, spécialement la défensive. Moi, là, je me mets à rêver à la défensive dans 2-3 ans, là, quand les Ryan Backers, les Mayu, peut-être Lane Upton. Mais il reste que c'est tout des si, mais c'est des si qui m'encourage. Je pense que c'est des bons si. Et puis, mais ça reste des si. Puis la clé dans le hockey, comme dans tous les sports, mais surtout dans le hockey, c'est t'as une fenêtre. À un moment donné, ils vont avoir une fenêtre de 3-4 ans. Mm-hmm. Et puis si tu gagnes pas, mais c'est recommencé. C'est tout à recommencer à zéro. Mais il faut pas que tu manques ta fenêtre. Les Maple Leafs là, sont à une coupe de saison de peut-être manquer cette fenêtre-là s'ils gagnent pas dans les deux prochaines années, parce qu'après ça, ça va qu'à recommencer.
Qui peut changer une fenêtre? C'est un bon club en avant. C'est une ville de goalers. Montréal, là, c'est une ville de goalers. Je sais pas si c'est Daubèche ou c'est un autre, là, mais il y en a des goalers qui peuvent changer la donne. Toronto a pas eu. Edmonton n'a pas eu. Ouais. Ils ont McDavid, ils ont Matthews, mais c'est un bon club, puis t'as le goaler en arrière.
Tu l'as pas, le goaler, là, tu chiales que tu l'as pas, puis quand tu l'as, mais tu l'apprécies pas.
On sait de quoi tu parles, hein, Stéphane?
Un coach et gardien,
Puis là, je n'en vois pas personne, mais souvenons-nous à Ottawa, là. À Ottawa, là, au début des années 2000, il y avait des sacrées équipes, là.
Oui,
mais
oui.
Il y avait du talent, là. Ouais. Mais le Hic était où? Devant le filet. Malheureusement, puis ils ne sont pas rendus en finale. Il aurait peut-être dû au moins une fois, mais ça n'a pas fonctionné. Puis c'est une équipe qui était remplie de talent, là. Il y avait Ossa, il y avait Eakley, non pas les deux ensemble parce qu'ils ont été changés un contre l'autre, mais
Alfredson,
en défense, t'avais Redden,
Phillips.
Hey, c'était Chara, une équipe bourrée de talent, mais ils n'ont pas gagné. Puis c'est pas parce que, mais c'est ça, il leur manquait le gardien clé.
Exactement. Je sais pas, mais je sais pas si c'est Daubèche le prochain, mais ça va en prendre un. Le Canadien, l'histoire du Canadien est marquée par des gars qui aiment m'amener. Arrête plus de pucks que la moyenne des ours. Fait que, il y en a un qui, pis ça change, tu sais, veux pas. C'est Patrick Roy arrive pas en 80. Tu sais, il y a eu une influence. Un joueur, une bonne équipe, mais il y a un joueur qui fait la différence. Puis y a-tu quelqu'un qui a plus d'influence sur un match de hockey qu'un gardien de but?
Non.
Encore aujourd'hui en 2023?
Non.
À part s'il s'appelle McDavid.
C'est vrai. C'est vrai.
Les gars, on va se trouver un titre. C'est Éric qui a le mot de la fin. Dis-moi, je vais être positif. J'adore ces tables rondes.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça, c'est une excellente nouvelle. Philo, merci beaucoup. Marc Defoy.
Merci à vous.
Merci, Marc. Tu vois, t'as tellement bonne mine quand tu sors tard le soir, là, me dire une affaire.
Ben, moi, j'étais un gars qui.
T'es un veilleux. T'es un veilleux. On en prend bonne note, mon Marc. T'es fait. Merci, Steph.
Merci, boy. C'était bien fun.
C'était l'anneau de feu. Et il y a toujours un feu, Steph Leroux, au retour de la pause. Patrick Leduc sur le soccer également à venir. Merci, les gars.
Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into
into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
Vous avez vu, comme moi, vous êtes des amateurs de sport, les images du voyage, presque un pèlerinage des Pingouins de Pittsburgh dans la région d'Halifax, de Cole Harbour, où Sidney Crosby a grandi. Ils y ont affronté notamment Halifax, les Sénateurs d'Ottawa. Et à quel accueil Sidney a eu droit. C'était vraiment touchant, très touchant. Et j'ai l'impression, je regardais les publications de Geno Malkin, que toute l'équipe a vécu quelque chose de spécial pendant ces quelques jours-là dans les Maritimes. Avec nous, défenseur des Pingouins de Pittsburgh, le Québécois Pierre-Olivier Joseph. Salut PO, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Est-ce que je me trompe ou toi et toute l'équipe, vous avez vécu effectivement quelque chose de spécial avec Sidney dans le coin d'Halifax et de Cole Harbour?
Ouais, vraiment. Tu sais, c'était de le voir, de voir dans la ville où il a grandi. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui fait longtemps qu'ils jouent avec, qui ont pas vraiment vu de où qu'ils venaient. Fait, tu sais, il a eu la chance de jouer devant ses fans, le monde qu'il supporte depuis tellement longtemps en venant d'un petit coin comme Cole Harbour, comme ça. Fait que c'était vraiment le fun pour toute l'équipe aussi de voir Sid avec un gros sourire pendant toute une belle fin de semaine.
Est-ce que tu as appris des choses sur ton capitaine pendant ces jours-là?
Ah, absolument. Je pense que tu sais, juste en le voyant un peu plus dans son monde à lui, puis tu le voyais qu'il se sentait à la maison. Puis il nous a fait sentir vraiment bien au niveau de nous accueillir dans la ville au complet. On a fait un petit scavenger hunt dans la ville qui nous envoyait à plein de... Une chasse au trésor dans la ville d'Halifax. Il nous a splitté en équipes, puis on faisait des tours de musées, on apprenait sur la culture d'Halifax en général. On a fait de la nourriture typique de la Nouvelle-Écosse. Fait, je pense que pour du monde qui venait de partout dans le monde, vraiment, dans notre équipe, c'était vraiment fun à ce niveau-là, qui nous a fait montrer sa ville, vraiment.
Là, je suis curieux de savoir une chose. Tu sais, quand on est un amateur, puis je sais pas si tu te laisses prendre au jeu, des fois, t'es un amateur de sport, en plus d'être un athlète de haut niveau, Pierre-Olivier, tu sais, des fois, il y a des moments touchants. L'ovation, quand il reçoit l'ovation sur la glace, je sais qu'il y en a eu un paquet à Pittsburgh, puis partout dans la ligue, puis t'étais là depuis que t'étais avec les Pingouins, mais est-ce que toi-même, tu viens ému quand t'assistes à un moment, en patin, en uniforme des Pingouins, comme tes coéquipiers, quand t'assistes à l'ovation qu'il reçoit des gens qui l'ont vu grandir?
Ah, 100%. Puis, tu sais, juste en allant à la pratique la journée d'avant, j'entendais les enfants, puis le monde dans les estrades qui criait son nom encore et encore. Puis, ça me donnait des frissons. Pour vrai, j'étais dans la chambre, puis c'était comme, waouh, j'en reviens pas que je me sens choyé vraiment de pouvoir passer des moments comme ça avec un joueur comme ça. Puis, tu sais, en embarquant sa glace, juste d'être à Halifax, c'était déjà un moment extraordinaire pendant la semaine qu'on a eu, mais d'entendre l'ovation qu'il a eu, j'ai eu des frissons sur le banc, puis ça me donnait le goût de rentrer dans le game tout de suite, mais ouais, je suis ému, puis je suis vraiment choyé de voir vivre des expériences comme ça.
Hey, ça doit me dire une affaire. Puis vous autres, en quelque sorte, bon, le Canadien t'a tremblant pour quelques jours, est-ce qu'on peut dire que votre voyage dans le coin d'Halifax, dans les Maritimes, c'était un peu ça pour vous aussi, là, une espèce d'activité pour rapprocher les gars entre eux pour la nouvelle saison?
Exactement, je pense que dans tout début d'année, des nouveaux joueurs qui arrivent, des nouvelles faces, alors des moments comme ça, on a du temps entre équipes de A à Z. Fait que c'était vraiment un bon team bonding en début de saison comme ça, surtout avec le nombre de nouveaux joueurs qu'on a eu ici. Alors c'est vraiment le fun d'apprendre à connaître les autres, pas juste de leur dire bonjour dans la chambre le matin, mais de passer du temps à savoir d'où ils viennent, leur famille et tout. Fait que c'est des moments comme ça qui font en sorte qu'en fin de saison, les gars veulent travailler pour les uns pour les autres. Là.
Je sais pas quel genre de gars est Geno Malkin, mais lui-même, là, sur ses publications, on l'a vu se faire photographier à côté de la fameuse sécheuse légendaire que Sidney a cabossé pendant son enfance. Fait que toi aussi, j'imagine que tu l'as vu, mais ça a l'air d'un bon gars, Geno. C'est sûr que la difficulté de la communication, mais tu communiques bien en anglais, mais c'est un gars sympathique à l'interne.
Vraiment, vraiment. On a vraiment du plaisir avec lui. Tu vois que il a son sens de l'humour, il a un bon sens de l'humour, puis il fait rire beaucoup de joueurs pendant l'année, mais c'est sûr que la barrière de langage est là, mais je veux dire, c'est le fun de le voir essayer, puis de rentrer dans des activités comme ça aussi. Une fin de semaine comme ça, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble, fait, de pouvoir voir de où Sid vient originairement, je pense pas que ça l'a déjà arrivé pour lui. Fait, il a vraiment joué bon jeu avant la fin de semaine dernière, puis C'est une très belle personnalité à avoir dans une chambre d'hockey, ce Martin-là.
Comme si vous aviez pas assez de joueurs d'impact, assez de joueurs vedettes, les dirigeants des Pingouins ont décidé de mettre la main sur Erik Karlsson. Quand tu te présentes à l'entraînement, as-tu l'impression que tu es au match des étoiles, Pierre-Olivier?
Je me regarde à ma droite, puis je l'entends parler, il me demande comment que j'ai pris pour déjeuner, je suis comme OK. t'es quand même Erik Karlsson, mais c'est des belles personnes, c'est des belles personnalités que j'ai la chance de rencontrer, puis de pouvoir grandir alentour d'eux, mais c'est fou des fois de pas percevoir qu'il y a autant de talent dans une chambre de hockey comme on est à Pittsburgh, puis leur expérience de carrière et de vie qui est exceptionnelle. Fait je me pince encore des fois en sachant que le premier power play est excellent, puis de voir les joueurs qu'il y a sur la glace, c'est assez impressionnant.
Qu'est-ce que tu découvres dans ces quelques semaines là que tu viens de passer avec le nouveau venu dans votre équipe, Erik Karlsson, précédé quand même de toute une réputation?
Ouais, vraiment, tu vois à quel point il est talentueux comme joueur. Tu vois que la confiance qu'il apporte dans une équipe, le sens de l'humour qu'il apporte, la joie de vivre à jouer au hockey aussi, il apporte une belle énergie. C'est sûr que ça va prendre une couple de games avant que le monde savent exactement comment jouer, mais
la chimie,
avec
ouais.
La qualité des joueurs, exactement, mais avec la qualité des joueurs qui sont ensemble sur la patinoire avec ces joueurs-là, ça va cliquer vraiment vite, selon moi.
Toi, je reviens au voyage dans les Maritimes. T'as passé quatre belles années dans les Maritimes, à Charlottetown, précisément. Fait que c'est un endroit de prédilection pour toi, personnellement, Pierre-Olivier.
Ouais, vraiment. Tu sais, c'était de voir des anciens amis, des anciens coéquipiers qui vivent encore à Halifax ou dans les Maritimes. J'ai pu voir ma famille de pension de Charlottetown qui sont descendus me voir. Fait que c'était vraiment le fun de retourner dans cette arène-là, en plus que j'ai tellement joué à cette arène-là. On a joué en série éliminatoire là-bas. Fait que, ça rappelait des beaux souvenirs du junior majeur que j'ai appris à tellement rencontrer du bon monde et de pouvoir grandir comme j'ai grandi là.
Ben merci de ta générosité de parler des autres, de parler de ce voyage-là, mais je voulais bien sûr parler de toi, de ton camp d'entraînement, de ta prochaine saison. Pierre-Olivier, tu as eu droit à des beaux mots publiquement de ton entraîneur quand t'es arrivé, quand il a dit que t'étais quand même une coupe de coche au-dessus de à même date l'an passé. Comment t'as reçu ces commentaires-là, puis qu'est-ce que t'as fait? Puis je sais que t'as fait le championnat du monde notamment il y a quelques mois, mais as-tu connu un été particulier puis avec des intentions en tête?
Ouais, c'est sûr que c'est tout le temps le fun à entendre. Je pense que avoir une année complète avec une équipe comme qu'on a ici, t'as pas le choix de t'améliorer. Alors, je suis juste content d'entendre que mon été aussi a bien fait les choses, puis que j'ai travaillé assez fort avec mon frère puis notre entourage pour être sûr qu'on revienne au camp d'entraînement le plus près possible. Mais c'est sûr qu'avoir une année complète, t'apportes beaucoup de bagages puis d'expérience au niveau de ta game en général, de la rapidité d'exécution. Alors, c'est sûr que le championnat du monde a aussi aidé de pouvoir continuer à jouer même après la fin de la saison plate qu'on a eu l'année passée, mais non, c'est tout à fait d'entendre, mais c'est juste qu'en entraînement, les vraies choses commencent la semaine prochaine.
Ouais, je comprends. Tu t'arrêtes pas à ça. Puis, je veux dire, hier, c'est déjà loin. Puis, c'est demain qui compte. Puis, c'est la très, très bonne attitude. Mais, tu sais, tu parles de ton été d'entraînement. Puis, tu fais allusion à Mathieu. Puis, tu me devances. Je sais pas, je te l'aurais posé la question. Mais, veux pas. Il flyait pas à peu près sa glace l'autre soir. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir des faits saillants dans le match qu'ils ont joué contre les Canadiens. Un match préparatoire. Fait que, lui aussi est très déterminé. J'espère qu'on va lui parler prochainement. Lui aussi semble très, très déterminé à connaître un gros hiver.
Ouais, vraiment. Je pense que j'ai vu les buts qu'il a scoré. Je voyais à quel point il voulait passer sur une glace d'hockey. Puis je pense pas à quel point des fois il voit son talent qu'il y a en tant que joueur d'hockey. Mais de le voir avoir la confiance comme ça, c'est le fun. Puis je l'ai vu vraiment depuis le début de l'été qu'il voulait travailler extrêmement fort pour venir en forme. C'est une belle équipe qu'ils ont à Ottawa. C'est une jeune équipe. Fait, de pouvoir rester là puis apporter son expérience, je pense que c'est ça qu'il veut vraiment, mais de le voir flyer comme ça, je l'ai vu flyer tout l'été comme ça, c'est le fun à voir là.
C'est ta cinquième année déjà professionnelle, mais tu viens tout juste d'avoir 24 ans, t'es encore tout jeune, mais ça va tellement vite une carrière. Parle-moi du degré de difficulté de l'apprentissage de jouer à ta position défenseur avec un beau potentiel offensif, quand même 21 points l'an passé, 5 buts. Tu sais que tu veux développer tout en répondant aux critères imposés par les entraîneurs qui veulent pas que t'en coûtes trop. Fait que qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile puis qui reste un challenge pour jouer à ta position, Pierre-Olivier?
Je te dirais que c'est la constance d'être aussi bon offensivement, défensivement. à chaque game. Je pense que tu dois l'entendre souvent en disant que c'est une longue saison. Fait que c'est vrai, mais tu peux tout le temps essayer d'aller chercher la coche de plus sans perdre les atouts que tu avais gagnés dans les années d'avant ou dans les games d'avant. Fait que j'essaie d'apporter un petit peu plus d'offensif sans trop perdre de défensif parce que il y a beaucoup de joueurs offensifs très talentueux dans la ligue. Fait tu peux essayer de défendre avant de d'appuyer l'attaque, mais tu sais, comme avec les joueurs que j'ai surtout l'année passée, j'étais beaucoup avec Chris, que j'ai pu apprendre aussi les aspects de la game peut-être que je connaissais pas encore dans la Ligue nationale, mais c'est sûr que l'expérience t'aide beaucoup dans un sens que plus que tu t'améliores défensivement, plus que tu es capable d'avoir de l'offensive, plus que ta confiance est là. Fait que il y a beaucoup de choses à penser, mais c'est le fun, c'est un bon processus, puis je suis chanceux aussi d'avoir des coéquipiers qui me supportent en étant jeune comme ça dans une équipe assez plus vieille, je te dirais. Fait que c'est juste le fun de pouvoir...
Ils prennent bien soin des jeunes, oui, mais c'est vrai que c'est une équipe une des plus âgées de la Ligue. Vos leaders, ce sont tous des gars qui en ont beaucoup de mélange derrière la cravate. Et donc, il y a une bonne relation entre les catégories d'âge au sein de l'équipe.
Ouais, vraiment, ça part de la chimie d'équipe. Tu sais, ça part du 87, la majorité du temps, et à quel point c'est une belle personne. T'as pas le choix d'être une belle personne alentour de lui. Fait que tout le monde, ceux qui se ressemblent, s'assemblent vraiment. Fait que tous les joueurs sont là pour les uns pour les autres, mais c'est vraiment le fun de voir des joueurs tu sais, comme Carter, que je peux parler le matin en riant, à apprendre à connaître, puis de son parcours, que tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il est là, puis qu'il y en a tellement vu des belles expériences que je peux juste apprendre de ça, là.
Une autre petite question avant de terminer, Pierre-Olivier. La confiance. On parle souvent de protéger la confiance des jeunes quand ils sont rétrogradés dans les mineurs. Bon, ce sera pas ton cas, vraisemblablement. Je pense que toi, c'était vraiment bien lancé, là. Mais est-ce que toi, quand tu as eu à effectuer des retours dans les mineurs, ça a affecté ta confiance?
Je pense que ça affecte la confiance de tout le monde de juste se faire retrancher, que ce soit au calibre Pee-wee, Bantam, Midget. Mais je trouve que j'avais une belle attitude dans le sens que je voulais juste aller gagner maintenant avec les joueurs dans la Ligue américaine. Je pense qu'on veut tous se rendre au niveau de la Ligue nationale, puis on était tellement plein de jeunes avec tellement d'expérience à apprendre encore. Fait que je me disais que tu sais, un step down des fois c'est pas la pire des choses, puis que avec le monde qu'on a à Wilkes-Barre, la qualité des joueurs, la qualité des coachs, qui tout le monde veut travailler pour se rendre à l'autre niveau, c'était le fun. Fait que j'allais avoir du plaisir à ce niveau-là sans penser que je venais de me faire retrancher d'une équipe plus haute, là.
Puis là, c'est le fan de hockey qui t'en pose une petite dernière. T'as-tu l'occasion de croiser Mario Lemieux puis Pierre Larouche de temps en temps, deux anciennes légendes puis qui sont toujours dans l'environnement des Pingouins, là? En tout cas, je présume, depuis la vente, je sais pas si c'est autant le cas, là, mais...
J'ai vu Mario Lemieux une fois l'année passée, je pense que je vois des frissons, il y a son nom puis ses photos partout. c'est pas sa fête aujourd'hui, je pense même, là.
Ben voyons donc!
Que t'en parles. Ouais, ça j'ai vu ça, mais non, j'aimerais ça les rencontrer plus souvent, puis de leur parler un peu plus de leur carrière. C'est quand même des extrêmement légendes dans les meilleurs joueurs de tous les temps. Fait que ça serait le fun de rencontrer plus, je te dirais.
Mais t'es en plein dans le mille, 5 octobre, c'est-tu quoi, si je me trompe pas, tu me fais penser, je pense à la fête à Patrick en même temps, si on a la même date, Patrick Roy. Fait que Patrick Roy et Mario Lemieux, on vous souhaite, via les ondes, un très joyeux anniversaire. Pierre-Olivier, merci du rappel, et ben, la meilleure des saisons possibles. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Pierre-Olivier. Bonne fin de camp d'entraînement, une excellente saison.
Merci beaucoup, à plus tard, merci d'avoir reçu.
Bye-bye, merci d'avoir été disponible pour qu'on puisse le faire. Pierre-Olivier Joseph, des Pingouins de Pittsburgh.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Salut Maxime.
Salut Mario.
Les gars de quatrième trio, là, on entendait Martin nous parler de Jake Evans puis de Brandon Gallagher, qui, ça pourrait être vu comme une démotion s'il jouait sur un quatrième trio de façon régulière, lui qui a marqué des saisons, qui a inscrit des saisons de 30 buts. Mais si t'as pas un bon quatrième trio, tu vas avoir de la misère à t'en sortir dans une saison. Je pense que c'est un trio qui... Puis j'aimerais ça que ce soit un trio qui se développe une personnalité, Maxime.
100%, t'as tellement raison. L'identité, c'est important pour un quatrième trio. Puis tu sais, Mario, on a toujours l'impression que le quatrième trio, c'est des gars comme Ryan Reeves, puis des gars qui font juste frapper, se battre, puis qui amènent de l'énergie. Tu sais, c'est totalement faux. Dans les bonnes équipes pour lesquelles j'ai joué, quatrième trio, c'était des vétérans comme des Corey Perry ou à Saint-Louis, moi j'avais Derek Roy puis Brandon Morrow. À Vancouver, j'avais Chris Higgins qui était avec moi sur le quatrième trio, Rafi Torres. C'était tous des joueurs qui étaient dans une période dans leur carrière où peut-être qu'ils avaient ralenti un peu, mais ils étaient encore capables de compétitionner ces trois premières ligues s'il y avait un problème. Puis ça, c'est bon, c'est de la compétition à l'interne. Parce que tu sais, mais si tu regardes en arrière ce quatrième trio, puis t'as des gars comme mettons en ce moment Armia, puis tu vois qu'il joue du gros hockey, puis il est capable de produire offensivement, puis il a des chances de marquer, tu sais qu'aussitôt que tu vas diminuer un peu le rythme, qu'il est capable de t'avoler ta place. Puis de transférer du premier, deuxième trio au quatrième trio, lorsque tu interchanges les joueurs, ben c'est beaucoup de minutes quand même. T'sais, c'est pas tous les joueurs qui sont prêts de passer à 18-20 puis de descendre à 12-10. Là. C'est pas le même style de préparation, puis c'est pas le même feeling dans un match de hockey. Donc, tu sais, faut arrêter de se contenter, je pense, comme quatrième trio, de juste embarquer sur la glace puis dire on a eu la possession de la rondelle puis on s'est pas fait marquer. Tu sais, faut juste pousser un petit peu plus, avoir des chances de marquer, amener de l'énergie, frapper, c'est important pour tous les trios, mais tu sais, montrer que tu es capable d'avoir un impact sur le match pour que même que l'entraîneur ait l'option de jouer son quatrième trio, plus que peut-être le troisième trio. Ça, je pense que c'est très bon dans une organisation.
Ben certainement. Puis tu sais, un quatrième trio, généralement, puis tu pourras me le valider, Maxime, tu sais, tu peux, si t'as des gars qui sont capables soit de frapper, mais de contribuer offensivement, d'exploiter, oui. Tu sais, t'es pas confronté au meilleur trio défensif de l'autre bord, là, quand tu joues sur la carte. Fait que profites-en. Profites-en. Ben, donne des buts à ton équipe.
Mario, combien de fois dans les dernières saisons on a dit on a de la misère à marquer des buts puis dans des matchs serrés, tu sais, des fois c'est pas, faut pas juste pointer du doigt les Caulfield Suzuki là. Des fois ça en prend un petit but du quatrième trio puis du troisième trio, c'est important dans des matchs serrés de 2-1, 3-2, ça fait une grosse différence si tu marques de 3-5 gros buts dans une année puis c'est 5 victoires de plus, tu sais, ça change la donne pas mal là, pour le classement. Donc c'est important que les gars élèvent leur jeu d'un cran sur les troisième, quatrième trio, très très important.
Il y en a un qu'on souhaite voir élever son jeu d'un cran si on change de marché puis on s'en va à New York, c'est Alexis Lafrenière, quatrième année dans les rangs professionnels. Et puis là, ben c'est sûr que c'est plus discret de d'évoluer puis de grandir à New York qu'à Montréal où tu sais le Canadien prend toute la place. Mais là ça commence tranquillement. Harry Brooks dans New York Post a dit que il se présentait comme un gars qui était sur un essai professionnel. On l'a flanqué à droite sur le premier trio. Il va falloir peut-être attendre qu'il y ait des intéressants, que ça provoque des résultats. Mais comment vois-tu là, la suite des choses pour Alexis Lafrenière avec les Rangers sous Peter Laviolette?
Ben, tu sais, il est encore jeune. C'est 21 ans là, quand même. Là. C'est, oui. C'est très, très jeune. L'an passé, c'est quand même 39 points. Là. C'est pas dramatique quand même, je trouve, pour un joueur qui avait 20 ans l'an passé, 16 buts. Je trouve qu'on... D'une certaine façon, on joue au yo-yo un peu avec. T'sais, on le met hors l'aile, on l'a mis sur le trio des jeunes. Il a joué un style de jeu pour le 2 ans des séries. C'était incroyable comment il était physique, il jouait bien, il allait au filet. T'sais, je trouve qu'on essaie un peu de changer son identité. T'sais, il y avait un style de jeu, Alex Lafrenière. Il a été repêché pour des qualités. Puis c'est pas le temps d'échanger. Là. C'est le temps de donner du temps, justement. Il a 21 ans, il y a plein de joueurs vedettes en avant de lui. C'est plus difficile de s'intégrer. C'est plus difficile pour lui de se faire sa place qu'un gars comme Caulfield, par exemple, à Montréal, où il n'y a pas personne pour compétitionner avec lui. Tu sais, quand tu es un jeune joueur offensif, d'aller passer par-dessus les Kreider, les Zibanejad, tous ces joueurs, les Panarin, tous les joueurs talentueux, c'est peut-être plus difficile de te retrouver en étant sur le troisième trio, puis peut-être pas sur le premier avantage numérique, puis il est peut-être pas où ce qu'il voudrait être, lui, côté temps de glace, puis tout ça. Puis je veux pas lui donner d'excuses, parce que c'est sûr et certain que la responsabilité revient aux joueurs, mais faut se calmer aussi, puis faut pas non plus que lui se laisse distraire par ce qu'on dit dans les médias. T'sais, je sais que New York, c'est un peu comme Montréal, c'est un gros marché, mais donnons-lui le temps, là, encore une fois. On n'a même pas commencé la saison cette année. C'est des matchs en concours. Ouais. Des fois, ça prend un mois se retrouver, puis on jugera en milieu de saison, au moins.
Mais il y a une chose, Maxime, j'aimerais ça souligner ça, c'est que, tu sais, quand t'annonces une reconstruction, les Rangers avaient fait officiellement, sous Jeff Gorton, d'ailleurs, puis comme le Canadien ici, même s'il n'y a pas eu la lettre, là, c'est que donc, tu dis, OK, on va descendre dans la cave, puis on va repêcher. Puis, trompe-toi pas, par exemple. Fait que, tu sais, veux pas, c'est comme nous autres avec Slafkovski. Gorton a beau dire, implorer la patience. C'est pas nous qui avons choisi de le mettre dans la Ligue nationale dès la première opportunité à l'an 1, 2, 3, une couple de semaines après son repêchage. C'est eux. Puis ici, c'est Montréal. Il y a pas de Jets de New York. Tu comprends, il y a moins de distractions autour. Lui, il va y avoir des murmures ici, bien avant, sur Lafrenière à New York, si il y a pas des signes de progression. Tu me suis?
Ouais, mais c'est ça. Mais Mario, tu sais, quand on parle de patience, ça veut pas non plus dire qu'on va avoir des résultats. Nous, on pense que patience, c'est 6 mois. Patience, c'est pas 6 mois. Patience, c'est 3, 4, 5 ans. Puis c'est important de, en autant qu'il y a, comme tu viens de le mentionner, qu'il y a une évolution d'année après année. Oui. Slavkovski, cette année, on dit que son camp, il est pas spectaculaire, puis on est tous d'accord là-dessus. Mais on est capable quand même de dire qu'il y a un petit 10% d'améliorer côté vitesse, mobilité, de prise de décision. Même, c'est pas tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on est capable de dire qu'il s'est amélioré un peu?
Ben oui, puis moi là, je ne vais pas, je suis pas quelqu'un qui va casser du sucre sur le jeune homme Maxime. Je veux juste te dire, je veux braquer les réflecteurs vers les gens qui prennent des décisions. C'est ouais. que tu annonces que tu t'en vas dans la cave pour repêcher. L'administration précédente se trompe en prenant Kotkaniemi au lieu de Tkachuk. Tu sais, on est échaudé, on retourne là, le reset a pas fait le job, on retourne dans la cave, là on repêche. Puis il y avait pas de Bédard cette année-là, j'étais encore très solidaire de ce choix-là, mais la décision de le faire jouer aussi rapidement fait que le gars va être épluché publiquement plus vite. C'est ça mon point, mais je reste solidaire de ce que tu dis, mais tu gères un marché aussi. Quand t'implores le monde d'être patient, je te demande, l'ont-ils été assez, eux autres?
Tu parles des Rangers?
Hein? Non, du Canadien et des Rangers, la même affaire, parce que les deux cas, le même dirigeant l'ont fait jouer aussitôt qu'ils ont pu.
Ben, je trouve que dans le cas des Rangers, on a peut-être un peu dévié du plan. T'sais, on avait envoyé la lettre, la reconstruction, puis finalement, on a eu la chance de signer un gars comme Panarin, puis on a voulu accélérer le tout parce qu'on a eu une saison avec du succès. Ça veut pas nécessairement dire qu'on vient de tourner la page puis c'est fini la reconstruction. Je pense que c'est là que les Rangers se sont trompés. Au lieu de continuer de faire jouer leurs jeunes joueurs, bien entourés avec des vétérans, on a décidé que hop, on joue mieux qu'on pensait. Allons-y tout de suite, puis c'est peut-être notre opportunité. Puis finalement, il manque encore plusieurs morceaux avec les Rangers. On a une bonne équipe sur papier. Ça, c'est sûr et certain. Du côté du Canadien, Mario, c'est totalement différent. On n'a pas envoyé la lettre aux fans puis tout ça. On a eu la misère à le dire, le mot reconstruction, mais on l'a finalement dit. Moi, je pense que le Canadien, en ce moment, quand je pense au management du Canadien Montréal, on est à l'étape encore de finir de payer nos dettes qu'on s'est fait laisser. Je sais pas si tu me suis là-dessus.
Oui.
Et on est en train de finir de payer les dettes pour recommencer notre budget à zéro d'une certaine façon. Tu sais, on paye pour les mauvais repêchages parce que normalement, là, en ce moment, t'es supposé d'en avoir des gars, là, des 5, 6, 7 dernières années de repêchage qui sont supposés être dans leur prime puis aider l'organisation. Puis il y en a zéro. Ben, théoriquement, presque zéro, là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Cole Caulfield, puis Suzuki a été acquis avec une transaction, Dak a été acquis avec une transaction. Tu sais, quand tu y penses...
Raison de plus d'être exigeant envers les sélections que tu fais quand tu as l'occasion de sélectionner tôt. Mais continue, Maxime, je ne vais pas t'interrompre.
Non, mais je suis d'accord. Tu ne peux pas te planter, mais en ce moment, on ne peut pas savoir s'ils se sont plantés dans leur repêchage.
Non, on ne le sait pas encore, non.
Fait que quand même bien que je prends 10 minutes pour en parler, c'est impossible. Puis l'année prochaine, ça va être encore impossible. T'sais, l'année prochaine, tu vas pouvoir commencer à évaluer avec d'une certaine façon peut-être plus sévère un gars comme Goulet. Parce que là, il va avoir 2 années derrière la cravate. C'est un vétéran, il a été repêché. Goulet, l'an prochain, on peut commencer à le juger. Slavkovski, pas encore. Là. On n'est pas rendu là du tout.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il demande aux gens de faire ce qu'ils ont peut-être pas fait, je trouve, en étant pas assez patient. C'est ma lecture, là, je t'oblige pas d'être d'accord. Puis
toi, tu parles de ta lecture, c'est que tu penses qu'il aurait dû commencer dans l'Américain, c'est ça que tu veux dire?
Ben, tu sais, ça aurait pas fait mal, tu sais, mais je vais avec, puis je pense qu'il va progresser pareil dans la Ligue nationale, Maxime. Mais tu sais, ce qu'on a dit pour Mayou, qu'on veut qu'il y ait des grosses minutes, ben, ça s'applique à tout le monde, tu sais. Encore plus, un gars qui avait 18 ans l'an passé, mais c'est fait, t'sais, c'est pas de remuer là, du passé, c'est juste de puisqu'on parlait de Lafrenière, ça m'a fait penser à ça, puis parce que lui-même est venu sur la place publique, puis implore la patience des gens, tu sais.
D'accord, mais tu sais, Mario, puis c'est un sujet important que tu touches, tu sais, le temps de glace. On parle souvent de le temps de glace de qualité pour un jeune. Je tiens à préciser qu'on parle toujours de beaucoup de minutes. Moi, je pense sérieusement, en tant qu'ancien joueur, qu'à partir de 12-13 minutes, tu as un beau temps de glace quand même pour apprendre puis être capable de performer sa patinoire. Tu sais, je sais que c'est pas énorme, mais à 12-13 minutes, tu es capable de faire quelque chose de bien sur la patinoire, puis c'est pas dramatique. Je considère que si on se fie uniquement sur le temps de glace, un 12-13 minutes dans la Ligue nationale de hockey est mieux qu'un 18 dans la Ligue américaine.
OK. Puis t'es passé par là. Fait que, tu sais, je prends ça en note, évidemment. Puis c'est comme hier, on parlait de différentes petites glaces, grandes glaces avec des gars comme Rooster qui a joué à Chicoutimi pendant des années, tout ça. Fait que votre expérience est très, très appréciée. Puis vous nous la partagez tous les soirs. Juste un mot sur le statut des gardiens. Montembeau, pas de contrat de signer. Tu penses-tu c'est parce qu'il demande plus que le Canadien est prêt à y donner puis il est prêt à parier sur lui puis jouer une dernière année sans contrat?
J'ai aucune idée comment se déroulent les négociations, mais ce que je tiens à dire dans ce cas ici, là, c'est que moi, je gagerais sur moi-même si j'étais monté en beau. Juste parce que je fais confiance à mon évolution lors des dernières saisons, je gagerais sur moi-même si j'étais lui, parce que il s'améliore de match en match. C'est la première fois l'an passé dans sa carrière qu'il avait un temps de jeu respectable. Il y en avait des matchs, puis il avait la chance de se reprendre deux jours après. Tu sais, quand il est arrivé au début, c'était pas facile. Là. C'était un match aux deux semaines, puis c'était le back-to-back qu'on appelle le deuxième match en deux soirs, puis l'équipe était épuisée, puis il recevait 50 lancés. Là. C'était pas idéal. Je trouve qu'il s'améliore. Il a l'air très solide devant le filet. Il a très bien fait cet été au championnat du monde. Il fait des bonnes choses. Si j'étais lui, je le prendrais le risque d'attendre puis de démontrer que je suis un vrai gardien numéro un. Je serais pas inquiet dans son.
100% d'accord, mon Max. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. On se retrouve pas plus tard que la semaine prochaine à la veille de l'ouverture de la saison régulière enfin.
Oh oui, j'ai hâte. Moi aussi. Ça va être le fun cette année.
Salut Maxime. Bye bye. Bon jeudi soir.
Les amateurs de sport.
C'est 23.